Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous. On va se régaler ce soir, beaucoup de monde hein, dans nos studios pour fêter nos un an déjà d'existence. Et oui, ça fait un an que cette émission, vous la retrouvez tous les lundis soirs. Hein, on avait fêté mon anniversaire la semaine dernière. Et bien là, c'est l'anniversaire donc de l'émission. Alors pour bien l'emmener et pour bien donc vous accompagner au cours de ce rendez-vous anniversaire, on va ce soir, et ils sont venus en masse, recevoir la section foot golf de Paris Morangis. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir Philippe et bonsoir à toute l'équipe.
Merci en tout cas, Mickaël. J'allais dire, vous êtes le président de cette section.
Je suis président de cette section du Paris Morangis Foot Golf, joueur aussi, bien sûr.
Ouais. J'allais dire que c'est un sport qui est relativement nouveau.
Ah, c'est un sport qui a 10 ans, il va fêter ses 10 ans.
Lui aussi va fêter un anniversaire.
Voilà un anniversaire, mais 10 ans d'arrivée en France. Mais après, sinon, le foot golf, ça existe depuis 2009. Mm-hmm. Voilà, ça fait 10-15 ans, donc du coup, qu'il y a du foot golf.
Très bien, la vocation de notre émission, c'est aussi de parler comme ça de tous ces sports dont on ne parle pas très très souvent. Alors vous êtes venu aussi accompagné d'un joueur, c'est Marie Quentin que je salue.
Bonjour, bonsoir à toute l'équipe, ça va et vous?
Voilà. Parfait, et puis alors, on a la chance d'avoir une membre de l'équipe de France, une internationale dans nos studios, Mélanie Villemercati, c'est ça? Bonsoir Mélanie.
Bonsoir à tous.
Merci
très
en tout cas.
Très bien, merci de nous accueillir.
Combien de sélections?
La première cette année, du coup.
Ouais. Premier cap.
Ouais.
Oh, voilà.
Premier
d'accord.
Cap.
Très bien.
Et puis, première année de foot golf, surtout pour moi.
Bon, très bien. On va en parler. Puis, je vais saluer l'équipe habituelle avec notre ami Abou. Bonsoir, Abou. Ça va bien?
Bonsoir, Philippe.
Pleine forme. On a une belle semaine de foot. L'année passée, des choses. On va pouvoir
comment sur quel prisme on se place.
Un championnat avec un résultat qui est bon un jour et qui est démenti lors de la journée suivante. On va quand même pouvoir en parler, quand même.
Oh, ça va être passionnant en parler.
Et puis il est avec nous aussi, c'est Antoine. Bonsoir Antoine, ça va bien?
Bonsoir, un peu malade, mais bon, ça va.
T'es un peu malade?
Ouais, avec le froid, mais bon, on vient quand même.
Très bien. Et puis elle sera aussi avec nous, comme c'est le cas depuis la semaine dernière. Elle nous fera des brèves sur l'info extra-sportive. C'est Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Philippe. Pour ma part, très bon week-end de foot. Donc,
C'est bien.
Tu m'étonnes.
C'est bien. Alors justement, donc on va commencer. Je suppose que vous aimez le foot, messieurs, parce que ça a été votre premier sport.
C'était le premier sport, c'est toujours le sport, hein, de toute façon, on joue toujours, moi pour ma part je joue toujours au foot malgré tout,
D'accord.
Toujours bien de taper le ballon.
D'accord, ok. Pareil pour vous?
Oui, pareil, en supportant un bon club, donc
c'est-à-dire
Paris Saint-Germain.
D'accord, ok,
donc, ça devrait...
très bon choix.
Autour de la table il y a beaucoup de monde, et c'est le même cas aussi pour Mélanie ou alors,
Exactement pareil, moi j'ai en plus eu la chance de pouvoir jouer au PSG étant plus jeune, donc
D'accord, ok, c'est bien, on va pouvoir en discuter, vous allez pouvoir commenter donc l'actu foot, hein. Alors on va la commencer avec le championnat, il y avait deux journées de championnat ce week-end, alors on va très brièvement revenir sur les principaux résultats de la 21e journée, qui avait vu la victoire de Marseille à Nantes 2-0, celle de Reims devant Lorient 4-2, la victoire du PSG à Montpellier 3-1, la belle victoire aussi de Nice à Lens, vous voyez comme quoi les résultats d'un jour sont plus ceux du lendemain, défaite de Lens donc à domicile devant Nice 1-0, Monaco qui bat Auxerre 3-2, et puis Rennes qui avait largement étrié Strasbourg 3-0, et puis journée de championnat ce week-end, 22e journée, Paris qui s'impose difficilement devant Toulouse 2-1, victoire de Lyon qui a renoué avec donc le succès en gagnant à 3-1, victoire de Lille qui a battu Rennes 3-1 à Rennes, Lorient a perdu aussi quelques points à domicile devant Angers 0-0, victoire de Strasbourg devant Montpellier 2-0, victoire importante, c'est la première depuis très longtemps à domicile pour Strasbourg, Brest-Lens 1-1, là aussi occasion manquée pour Lens de refaire un petit peu de terrain sur le Paris Saint-Germain. Et puis défaite, la première depuis 10 matchs, de Marseille face à Nice 3-1. Défaite à domicile. Donc Paris Saint-Germain en tête avec 54 points. Deuxième, Marseille-Lens 46 points. 8 points d'écart donc maintenant pour le Paris Saint-Germain en tête du championnat. 4e Monaco 44 et 5e Rennes 40. Et puis en bas de tableau, eh ben, c'est toujours aussi serré. Hein. Brest et Montpellier 14e avec 20 points. 16e 3, 19 points. 17e Strasbourg, Ajaccio 16 points. Par contre, décramponné, Auxerre, 19e avec 14 points et 20e Angers, 20 points. Abou, une analyse de ces premiers résultats. Une semaine quand même où il s'est passé des choses au niveau du championnat.
Oui, il s'est passé énormément de choses. Hein. On voyait, il y a encore quelques semaines, Lens finir champion de France, pourquoi pas. On se rend compte que ce n'est pas si facile que ça.
Ils perdent des points encore de route depuis quelques temps.
C'est 2 points pris sur 9, je crois, pour Lens sur les 3 derniers matchs. On annonçait pareil Marseille, possiblement comme un concurrent au PSG, ils prennent plus 8 ce week-end. Mmh. On annonçait Strasbourg qui était fini, et finalement avec l'arrivée de Los Corner, on se dit que c'est peut-être pas tant fini que ça. Il y a Angers qui arrête de perdre, hein, qui stoppe
un peu. Loin quand
ouais,
même, hein.
C'est fini, mais il y a quand même, on met une plaie sur les morales, enfin on met un pansement sur la blessure. Il y a qui encore, il y a Lille qui revient très bien dans le championnat, il y a le Nice de Didier Digard qui continue à prendre
Nice
des points.
Nice qui va bien depuis l'arrivée de Didier Digard.
C'est d'ailleurs. Ça, il y a Lyon également qui a gagné ce week-end, même s'ils avaient fait match nul dans la semaine. Mmh. C'est un peu coussi-coussa, mais c'est un très beau championnat. On voit Monaco qui est à 2 points de l'OM, à 2 points de Lens. Ça revient vite. On voyait Lens et Marseille assurément en Ligue des Champions, deuxième ou troisième. Ouais. Les Monégasques qui vont peut-être venir faire barrage à un de ces deux clubs. Il y a Rennes également, pareil, Rennes comme depuis la blessure de Martin Terrier, c'est un peu coussi-coussa.
Ouais,
mais c'est un très beau championnat. Quoi. On prend énormément de plaisir week-end après week-end. Et la fin de saison va être excitante. Et il reste de nombreuses journées.
C'est que le Paris Saint-Germain sont vraiment très bien joués. Ils ont 8 points d'avance.
C'est ça. Et c'est ce qui est malheureux un peu en Ligue 1. Tous les ans, c'est le même schéma. On reproche au PSG de recruter bon nombre de joueurs trop forts peut-être pour le championnat. Sauf que les PSG, on les joue 2 fois dans la saison. Et il faut gagner le reste des équipes et ils n'y arrivent pas.
Antoine, alors en plus, Mbappé est blessé. Hein. Donc ça, c'est important.
C'est ça, 3 semaines et qui ratera sûrement le match contre le Bayern.
Il y a quand même 2 matchs importants. Il y a le match de Coupe de France mercredi soir, mais il y a aussi Monaco en championnat. Et ensuite, il y a le match du Bayern de Munich. Et après, il y a le déplacement à Marseille.
C'est ça. Et ensuite, ils vont à Lille également, qui est en très bonne forme.
C'est un long marathon.
Ça va être un février décisif.
Ouais, semaine compliquée, c'est dommage pour Mbappé. On l'attendait depuis le début de la saison là-dessus. J'aimerais quand même revenir sur les prestations de Nice.
Oui.
Qui fait une super journée, qui bat Marseille en ayant bien joué. Sur leurs 3 derniers matchs, ils battent Lille, Lens et Marseille. Donc ils stoppent la concurrence.
Depuis que Digard est arrivé, tout va bien.
Et ils stoppent la concurrence et ils vont peut-être pouvoir jouer l'Europe.
Après, Marseille et Lens, pour moi, ne sont pas des concurrents de Nice, pas aujourd'hui. Là où est Nice, classé Nice actuellement, je vous prends le pari que Nice ne reviendra pas dans les 3 premiers.
Oui, mais pour toi,
donc, c'est pas la concurrence. Nice n'est pas un concurrent de Marseille ou de Lens. À la limite, de Lille, pourquoi pas. De Lyon, pourquoi pas. Des clubs en milieu de tableau, oui, mais pas de. Faut être réaliste aujourd'hui. Didier Digard, il arrive, il fait des très bonnes performances et c'est très louable. Il ne se renie pas en plus. Même contre Marseille, il a le même jeu contre une équipe dominatrice, il garde la même philosophie de jeu, mais c'est pas des concurrents aujourd'hui de Marseille ou de Lens qui depuis le début surperforment.
Juliette, et puis alors, on en parlait la semaine dernière, avec des entraîneurs finalement très peu connus, hein. Tous ces clubs, Lens, Lorient, Nice finalement,
Reims,
c'est pas des entraîneurs particulièrement connus médiatiquement, et il y a du bon travail qui se fait.
Oui, je suis d'accord avec Abou pour Nice. Pour moi, ce n'est pas un concurrent de Marseille.
Oui.
Nice, j'ai la chance d'aller souvent au stade pour les voir.
Oui.
Ils ont une bonne équipe depuis déjà 2 ans, mais ils n'arrivent jamais à surperformer et à réaliser leurs objectifs. Donc là, ils ont un nouvel entraîneur depuis le match contre Montpellier où ils ont fait un bon 6-1. Donc pendant un temps, ça va aller, mais je pense que ça ne tiendra pas à la fin de la saison.
Vous êtes supporter du PSG pour la plupart. Ça vous inquiète un petit peu, cette blessure d'Mbappé? Le PSG qui sent très bien jouer survole le championnat, 8 points d'avance.
C'est vrai qu'en championnat, c'est dur. Parce que
et puis, il y a un calendrier qui arrive.
Il y a le calendrier, facile, c'est vrai. C'est ça qui va être difficile à gérer. Surtout que là, je pense qu'à Munich, ça va être dur. Sans Mbappé, devant,
c'est
ça va être...
C'est match retour à Munich, hein.
C'est au parc.
C'est le match retour à Munich.
Excusez-moi, le match aller et après les 2 déplacements à Marseille, ça peut être très très compliqué.
Ouais.
Après, pourquoi pas un sursaut d'orgueil?
On va voir. Bon, il y a un banc en principe pour, qui est fait pour ça, mais enfin le banc, là, il commence à y avoir des sérieux blessés.
Quand même. Et même le banc, il n'est pas terrible au PSG, désolé. Quand tu recrutes des joueurs, c'est un truc de fou. À Paris et partout, hein, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de la direction, les mecs, avant d'arriver, ils sont excellents. Au PSG, ils sont dégueulasses. Après, ils sont excellents. Quand tu n'es pas titulaire au PSG, c'est très, très dur de s'imposer. On le voit avec des joueurs comme Fabian Ruiz, qui était excellent à Naples, Carlos Soler, qui était excellent à Valence et qui est toujours d'ailleurs international espagnol. On a vu avec Abdou Diallo qui a quitté le PSG cet été. C'est très compliqué de s'imposer à Paris quand on n'est pas titulaire.
Mais même avec Sarabia, c'est un joueur très excellent en dehors du PSG.
Au Sporting, la saison dernière, il fait une saison de fou. Et là, c'est très compliqué à Paris quand on n'est pas titulaire.
Mais c'est le problème du PSG, c'est qu'on n'arrive pas à attirer de grands joueurs. En même temps, en attaque, on peut attirer.
Messi, Neymar, Mbappé, tu peux faire mieux quand
non,
même.
Non, mais je parle pas d'eux, je parle de derrière. Et pour moi, le vrai problème du PSG, c'est que déjà, on ne pourra pas gagner avec les trois devant. La masse salariale est beaucoup trop. Enfin, elle est énorme. Et on n'arrive pas à combler derrière. On a recruté Fabian Ruiz qui joue en box-to-box à Naples. Là, on le fait jouer à contre-cœur. On ne sait pas ce qu'il fait, il est perdu. Et Kitiki, on voulait un pivot. Il n'est pas du tout pivot. En fait, on le force à jouer pivot contre nature. Il n'y arrive pas de la tête, il n'est pas bon. Il a beaucoup de qualité. J'étais au Parc des Princes contre Toulouse, je l'ai vu. Il s'est donné, il a couru, il était au pressing. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas son rôle, il n'est pas comme ça. Alors, il a été applaudi, mais bon.
Le problème, c'est surtout qu'il est quand même.
Oh, mais même Campos, Philippe, la dernière journée, c'est incroyable, la dernière journée du Mercato, Luis Campos s'occupait du Mercato du Celta Vigo, club où il est employé également. On est le Paris Saint-Germain. Comment un grand monsieur comme Luis Campos peut être le directeur sportif également du Celta Vigo? C'est pas possible. Je suis le PSG, je mets tout sur lui, quitte à le payer trois fois ce que le paye le Celta Vigo.
Alors, Juliette, et après, je voudrais aussi connaître l'opinion de Mélanie, parce qu'elle a joué au Paris Saint-Germain. Juliette.
Mais je pense que déjà, Campos a fait un très mauvais choix en laissant partir Kalimuendo et en prenant Etiquité, parce qu'ils avaient quand même un pivot qui est un jeune joueur, certes, mais un très, très bon pivot. Donc, c'est dommage, cette transaction qui ne sert pas à grand-chose, finalement.
Alors, mais Mélanie, vous qui avez joué au Paris Saint-Germain, combien de temps dans l'équipe féminine?
Moi, j'ai joué de 13 ans à 18 ans.
Ah, quand même.
J'ai commencé le football avec les garçons.
Donc, on dit que c'est un club un petit peu particulier actuellement dans sa gestion. C'est votre sentiment, si vous qui l'avez côtoyé de très près?
Moi, j'ai pu voir la différence de gestion, en fait, parce que j'ai connu avant l'ère Qatari et après l'ère Qatari. Et déjà, rien qu'au niveau de la section féminine, la bascule, elle s'est faite automatiquement, en fait. Ouais. Donc, il y a eu un changement de gestion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt pour le recrutement international que la formation. Et je pense que le problème de départ, il est là, en fait. Et que ça soit chez les filles, en fait, c'est exactement le même concept qu'ils ont pour les garçons.
On dit que souvent, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il manque de projets sportifs. Vous êtes d'accord avec ça?
Ils sont pleins d'ambition. Mais chaque année, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on entend plein de choses. Oui, ça va changer. Oui, à chaque nouvelle arrivée d'entraîneur, directeur sportif.
On entend ça, Et
ça change.
Et ça change. Mais
deux, trois mois.
Voilà.
Mais ça change.
C'est ça.
L'arrivée de Galtier, les trois, quatre premiers
joueurs,
mois.
Mais pas dans la philosophie.
Mais parce que c'est dirigé par la même chose. C'est le PSG, pardon. Tu peux tout changer au PSG, tant que tu n'auras pas changé le président, ça ne changera pas. Nasser, avec tout le respect que j'ai pour ce bonhomme et tout ce qu'il a fait pour le foot français, Nasser, pour moi, il est plus un copain des joueurs qu'un dirigeant sportif. Faut changer, faut que la direction qatari décide d'enlever Nasser et de mettre quelqu'un d'autre. Mais c'est compliqué aussi, c'est la famille.
Est-ce qu'il venait vous voir, Nasser, de temps en temps? Est-ce que c'est arrivé qu'il soit venu quelques fois?
Moi, quand j'étais chez les jeunes, on avait l'entraîneur de la D1 qui venait, on l'a rarement vu. On l'a vu dans quelques cérémonies, rarement voir.
Et vous aviez des joueurs d'équipe pro qui venaient des fois sur leur temps libre, peut-être vous voir? Non, jamais.
Non,
jamais.
Non. Chez les jeunes,
non,
rarement.
Jamais, chez les jeunes, rarement. Juliette, non? Toi qui aimes bien ce club, ce Paris Saint-Germain, c'est l'ambiance, c'est le sentiment que tu ressens?
Oui, bien sûr. Déjà, pour moi, la chose qu'il faudrait changer, c'est de se baser sur la formation. Je pense que la formation parisienne, c'est un des meilleurs clubs formateurs.
Et pourtant, c'était
de France.
Des meilleurs, oui, c'est vrai.
Et il y a tellement de jeunes, là, on
mais
voit...
Mais ils ne restent pas, après.
Ils ne restent pas, mais est-ce que Paris leur offre les possibilités de rester? On voit avec Warren Zaïre-Emery, qui fait de très bonnes rentrées. Celui-là, heureusement, ils ont pu lui donner un contrat professionnel. Mm-hmm. Mais c'est des jeunes comme ça qu'il faut garder. C'est ça qui fera avancer le club, plutôt que mettre des millions sur des joueurs... dont on n'est jamais sûr.
C'est vraiment un problème. Je regardais il n'y a pas longtemps le nombre de joueurs qui ont été formés au PSG. Je pense à Maignan, Diaby, Xavi Simons, là on
Coman.
Coman. Il y en a plein partout. Rien que l'équipe de France.
Le problème, c'est qu'ils sont bons ailleurs. Quoi.
Guendouzi, il est quand même passé par le PSG. On a un vivier exceptionnel.
On est content pour lui. Bah...
Mais le problème, c'est qu'on bouche la place. Comment voulez-vous que Carri, que Garbi ou quoi évolue si on bloque la place aux trois de devant? Je pensais au dernier match contre Montpellier, les trois, enfin, il y avait des absents, mais n'ont pas été très bons, et ben on n'a pas osé les sortir.
Mais Philippe, ça ce serait pas un problème si en haut ça surperforme. Au Real Madrid par exemple, des joueurs sortis du cru, il n'y en a pas tant que ça. Mais en haut ça surperforme, donc on oublie qu'il y a des joueurs pas formés. À Lyon, en haut ça surperforme pas, mais en bas, il y a les joueurs qui sortent du centre de formation, ils sont tout bonnement incroyables. Donc je pense qu'au PSG, à la limite, tu veux faire l'impasse sur la formation, c'est pas grave, mais sur le recrutement, mets quelqu'un de compétent et qui sache bien faire son travail.
Michael, vous suivez l'actu du foot, je suppose, hein, puisque vous y venez. Vous avez un club favori, un club fétiche?
Ah, mon club fétiche depuis que je suis petit, ouais. C'est plutôt Monaco,
oui.
En fait.
Ouais, ouais. Voilà. Il y a un beau Monaco PSG, non mais vous avez raison.
Désolé pour
oui,
les
non, mais...
qui...
Il y a des gens très bien qui supportent l'AS Monaco.
Mais c'est vrai que depuis un certain temps...
C'est aussi
temps,
un des clubs qui a un beau passé dans le foot français. Hein.
Eh bien oui, c'est pour ça. Et puis en 2004, hein, par exemple, oui, quand ils sont partis
avec
en finale des champions.
Hein.
Oui.
3-0
contre Porto. Oui, bon,
en
la finale,
mais, bon parcours quand même. Ils ont
je
éliminé
me souviens pas de finale, par contre.
Non, mais ils avaient éliminé le Real de Madrid et puis Chelsea. Hein, avec
ah
des
bah
gens
oui,
comme entraîneur.
Avec
Morientes, hein.
Ouais, par
non,
exemple,
non.
Qui met...
Ouais, mais...
Bon, et en tout cas, oui, bon, je suis un petit peu moins à l'actualité du foot depuis que je me suis mis au foot-golf. En
d'accord,
fait, je passe beaucoup de temps en fait, dans l'organisation du foot-golf. Et c'est vrai que je suis de loin maintenant les résultats du foot.
Alors, il y a aussi en bas de tableau, on l'a dit, bon, Angers sont pratiquement condamnés avec 9 points, Auxerre 14 points, ils sont condamnés. Par contre, entre Brest, Montpellier qui ont 20 points, Troyes qui a 16 points et Strasbourg et Ajaccio qui ont 18 points, ça se joue. Hein.
Ouais, bon,
il y a match. Hein.
Pour Angers, c'est fini. Je crois qu'on n'avait pas eu un nombre, enfin autant de défaites de suite depuis 34.
C'est encore aussi, je crois.
C'est ça, il a été battu. Après, voilà, Strasbourg qui revient, on en parlait tout à l'heure. Je leur souhaite de passer, mais le problème, c'est que là, maintenant, il y en a 4 qui vont descendre.
Il y a Auxerre qui décroche, donc
ouais, ça
va être compliqué aussi.
Même Ajaccio, il, défensivement, pour moi, ça va couler. Ça coule déjà, bien sûr, mais je les vois pas rester en Ligue 1.
Alors, on va passer à la Ligue 2. En tout cas, il y aura cette semaine donc, un beau match de Coupe de France. Ça sera un classico avant la lettre. Hein. Marseille, Paris Saint-Germain. Et puis, les deux équipes se retrouveront fin février. Puis, entre-temps, on l'a dit, donc, le match à Monaco et ensuite contre le Bayern de Munich en Coupe d'Europe. Naturellement, on en reparlera dans les prochaines semaines. En Ligue 2, là aussi, 21e et 22e journée. On va quand même rappeler la victoire du Havre à Bordeaux, 2-1. Sochaux qui a cartonné, qui a écrasé Valenciennes 4-0. Metz et Rodez, 1 partout. Saint-Etienne battu 2-0 par Bastia et le Paris FC battu à domicile par Pau 1-0. Et puis dans la journée de ce week-end, eh bien le Paris FC est allé faire 0-0 au Havre quand même. Sochaux a gagné à Rodez 2-1. Bordeaux a gagné à Pau 2-0. Et Saint-Etienne a renoué à nouveau avec la victoire en battant 6-3-2. Ce soir, il y a Amiens-Metz à 20h45. Donc c'est le Havre qui survole toujours le championnat, donc très largement en tête avec 8 points d'avance. Premier, le Havre 47. Deuxième, Sochaux-Bordeaux 39. Grenoble est quatrième avec 36 points, alors que le Paris FC est toujours, on l'a dit, dans le ventre mou du championnat, 11e avec Annecy, 28 points. Ils se retrouveront d'ailleurs en Coupe de France tous les deux, donc cette semaine pour les 8e de finale. Et puis en bas de tableau, 16e Nîmes, 22 points. 17e Dijon, qui était pourtant encore un club de Ligue 1 il y a quelques saisons. Dijon et Saint-Etienne, 21 points. Et 19e Rodez, donc avec Aignore, avec 20 points. Donc là aussi, c'est très très serré pour le maintien en bas. Hein.
C'est ça, très très serré. On a vu Saint-Etienne là ce week-end avec un but exceptionnel de Mathieu Cafaro qui met un but, le but du 3-2 à la 83e minute, un but exceptionnel venu d'ailleurs. Saint-Etienne, moi je pense que ça va se maintenir. Je pense, en tout cas, ils ont fait les bonnes recrues. Ils ont eu un mercato justement d'ajustement. On parle du mercato d'hiver comme un mercato d'ajustement. Mais ils se sont bien ajustés. L'arrivée de Charbonnier, ça leur a fait extrêmement de bien. Et moi je vois Saint-Etienne se maintenir. Je vois le Havre finir champion, mais ça, il n'y a pas besoin d'être devant, quoi. Si ça va partir, ça va filer. Et par contre, moi, je miserais sur Grenoble en Ligue 1.
Son quatrième.
Ouais, moi, même. Je vois Grenoble passer devant parce Bordeaux et Sochaux.
C'est serré, hein. Sochaux, Bordeaux, Grenoble, il n'y a que 3 points d'écart. C'est serré,
c'est ça.
Hein.
Sochaux, ça joue très, très bien au football.
Il y en a deux qui montent. Hein.
Ouais, c'est ça, cette saison. Ouais. Et Bordeaux, c'est une équipe de Ligue 1, on connaît, hein, qui s'appuie sur ses anciens joueurs de Ligue 1, d'ailleurs, avec Macha, qui est meilleur buteur de Ligue 2. Mais moi, je vois bien Grenoble monter. Je ne sais pas pourquoi, je sens Grenoble monter en Ligue 1.
Et le Paris FC, donc on en parle chaque semaine, hein, c'est le club qui est pas loin d'ici, donc dans le ventre mou.
Ouais, bah, le Paris FC, ouais. C'est
comme à domicile.
Bah, c'est comme le Paris Saint-Germain.
Nul Havre 0-0, comme quoi, là ouais. aussi, voilà.
Ouais, non,
la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain.
Et le Paris FC, on est habitué, c'est triste pour le club. Ils avaient la possibilité de monter il y a 2 ans, ils avaient la possibilité de monter l'année dernière. Quand on n'arrive pas à monter, ça finit comme ça. Et là, ils sont 12e, attention quand même, ils ont beau avoir 8 points de plus que le premier relégable, ça va vite. Oui, ça va vite quand même, attention.
Et Mélanie, le Paris FC, vous les avez souvent rencontrés aussi, hein, les matchs PSG-PFC chez les féminines.
C'est ça, c'était le club de Juvisy du coup, qui a fusionné avec le Paris FC. Donc effectivement, on en discutait avec Quentin juste avant et c'était le gros derby parisien un peu... un peu notre gros classico à nous, c'est-à-dire beaucoup d'engagement physique, etc.
Alors, on en parle souvent dans l'émission, ce serait bien qu'il y ait deux clubs parisiens quand même.
Mm-hmm. Oui, totalement. Ah, comme l'a dit Abdou, effectivement, Paris FC, ça fait plusieurs saisons qu'on y est presque, puis non.
Ouais, bah oui. Donc, cette année, c'est le ventre mou, ce sera la moitié du champion en milieu de tableau de championnat cette année. Hein. Il n'y aura probablement pas de montée.
Ça me paraît compliqué.
Et on fait confiance à Thierry Loret quand même, qui n'a toujours pas été licencié. Okay.
Non, il n'y a pas de raison.
Quand même. Et puis, la saison dernière, c'est flop. Ouais. Cette saison, c'est flop. Il y a des entraîneurs qui auraient été virés pour moins que ça.
Il est chaud aux portes de la Ligue 1. On ne peut pas dire un bilan qui est négatif.
Si, franchement, Philippe, l'avance qu'ils avaient pris, si c'est négatif. Yvan Wandi était ton invité l'année dernière et il le disait ici, le PFC, fin de saison, ils ont toujours du mal et ça finit comme ça. Et du niveau de Thierry Loret, normalement, t'es censé changer ça.
Et finalement, ils vont peut-être faire un bon parcours en coupe. Hein. Ils jouent Annecy ce mercredi, si ça se trouve.
Attendons de voir, Philippe.
Ils vont déjà. Ouais, c'est deux équipes qui sont en milieu de tableau en plus, donc ça va être très équilibré.
Moi, le PFC, je ne mise même pas un centime dessus. Attendons de voir quand même.
On verra ça. La 19e journée, le National. Alors là aussi, donc Bourg-en-Bresse qui bat Versailles 3-1, Martigues qui bat Châteauroux 1-0, Red Star qui bat Sedan 2-1, le Paris Atlético 13 nul à domicile devant donc Villefranche en Beaujolais 1-1. Ce soir, il y a Le Mans-Concarneau à 21h. J'avais oublié de vous dire, sinon, je vous l'avais dit que Amiens jouait Metz ce soir à 20h45 pour clore cette 22e journée de Ligue 2. Donc Martigues est en tête à 35 points, deuxième le Red Star 34 points. Troisième Versailles 33. On voit que c'est très 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 serré en tête du National. Et puis en bas, c'est aussi un petit peu compliqué. 15e donc le Puy avec 18 points. 16e Saint-Brieuc, le Paris Atlético 17 points. Et 18e Borgo 13 points.
C'est ça.
Nouveau match nul du Paris Atlético.
Paris Atlético qui font 1-1 à Villefranche. Villefranche qui avait tenu en échec le Red Star, hein, c'est quand même une belle équipe malgré son classement. Villefranche qui est 11e. Mais le Paris 13 Atlético en fait. En fait, tous les clubs parisiens se ressemblent. Il n'y a pas de politique sportive dans ce club. Cet hiver, ils ont dû recruter au moins 10 ou 11 joueurs. 10 ou 11 joueurs, des prêts, des joueurs libres à gauche, à droite. On ne construit pas une équipe et on ne fait pas une cohésion avec 10 ou 11 joueurs recrutés parce que c'est des anciens joueurs de Ligue 2 ou qui ont joué 5 petites minutes en Ligue 1. Ce n'est pas possible. C'est dommage pour le club. Moi, je pense que ça va retourner tout droit de là où ça vient. Ça va descendre. C'était déjà historique qu'ils soient là en National et félicitations à eux. Mais le mercato d'été plus le mercato d'hiver a mal été géré.
Alors, le Red Star, deuxième, Versailles, troisième.
C'est étonnant, Versailles qui était premier, Versailles qui passe troisième.
C'est pareil, ils ont eu quelques échecs à l'image de cette défaite à Bourg-en-Bresse, qui est pourtant un club qui n'est pas très bien placé. Et puis, le Red Star, ils vont peut-être monter, retrouver la Ligue 2.
Moi, je pense même que ça va monter le Red Star. Ouais. Et je le souhaite en tout cas à Bibey, qui est un coach juste formidable, consultant formidable. Et maintenant, qui s'avère être un coach aussi formidable, on attendait de le voir à ce niveau-là. et il le prouve. Après, moi, je vois Versailles quand même monter. C'est le plus haut budget de National quand même, Versailles. Ouais. Moi, je pense que ça va monter et je pense que Martigues finira troisième. Mais je vois bien le Versailles finir champion, le Red Star finir deuxième et Martigues, j'y crois pas pour la montée.
Voilà. Et il y a Concarneau qui joue ce soir. Donc, si Concarneau gagne, bah, ils reviennent aussi dans le match des quatre pour la montée.
C'est ça.
Donc,
c'est alléchant partout.
Ouais, Abou l'a dit, le budget de Versailles, il est démesuré pour le championnat. Ouais. Moi, j'aimerais bien que le Red Star monte.
Oui.
Pour le historique.
Ça, bah oui, il y a un passé historique au Red Star. Hein. Bah oui.
Donc, ça ferait trois clubs parisiens dans les deux grandes ligues.
Ouais, francilien, ouais.
Parce francilien. Même Versailles, oui, c'est vrai que ça en fait quatre, mais ouais, j'aimerais que le Red Star monte. Et après, pour revenir pour les Gobelins, alors mon cousin joue aux Gobelins.
Oui.
Donc, Édouard Daillé, il joue défenseur là-bas.
Ah oui. Ouais. Oui, Abou les connaît tous.
Et alors, il était au Red Star la saison d'avant.
Ah oui, mais c'est ce qu'ils font.
Et il m'a expliqué que le club était selon lui moins professionnel. Et du coup, ça les desservait. Ah, oui. Alors là, on a eu un gros recrutement. Mais c'est malheureux parce que y a quand même de la qualité. Le club se bouge, mais il en faudra encore.
Bah, c'est pour ça que Fabien Valéry il est parti. Quand il dit moins professionnel, je rejoins totalement les propos. Fabien Valéry, il quitte un club qui monte en National pour un club qui descend en National 2. Je pense qu'à partir de là, on aurait dû se douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau du club. Après, on s'est dit parce que Chambly a un plus gros budget, donc peut-être pour l'argent. Finalement, on se rend compte que c'est peut-être ces raisons-là, un club moins professionnel.
En tout cas, il faut le faire venir un jour.
Ouais,
faut le faire venir. Dès qu'il y a l'opportunité, il faut le faire venir. Voilà.
Je nous souhaite de monter avant quand même. Ouais, okay. remonter un peu dans le classement.
Allez, Mélanie. 14e journée du championnat féminin. On les oublie pas, les féminines. Hein. Lyon qui est allé gagner à Rodez 5-0. Le Paris FC qui a battu Dijon 2-0. Votre ancien club, le PSG, qui a battu le Havre 3-1. Et nul entre Soyaux et Fleury-Mérogis. Victoire de Fleury-Mérogis à Soyaux 4-0. Donc Lyon est en tête avec 37 points devant le PSG, deuxième 36. Troisième, le Paris FC qui a un petit peu plus décramponné, 27 points. Et quatrième, Fleury et Montpellier, 25 points. Il y a toujours match entre Lyon et le PSG. Hein.
Exactement, comme depuis, on va dire, une petite décennie. Hein. Mm-hmm. Avec tantôt l'avantage pour l'un et plus souvent l'avantage pour Lyon. Avec Lyon, quelques surprises parfois parisiennes, mais malgré tout, la structure lyonnaise est tellement bien ficelée, des tout petits jusqu'à...
C'est mieux que l'équipe homme actuellement.
Hein. Oui, exactement, heureusement que les filles sont là.
C'est plus le propriétaire principal, hein, mais voilà. Ouais.
Non, c'est clair, exactement. Après, on espère toujours que Paris réussira à gagner ces précieux points qui leur permettraient de maintenir la première place jusqu'à la fin de la saison. Mais ça va être difficile.
Le foot féminin, on en parle un peu plus, c'est bien.
Ouais, c'est très bien.
C'est bien, même au niveau des clubs, on en voit un peu plus. L'équipe nationale a fait des bonnes audiences l'été dernier, pendant l'Euro.
Oui, exactement. Et de toute façon, avec la professionnalisation du foot féminin, on va être amené à en parler de plus en plus.
Ce qui manque maintenant, c'est de franchir le petit cap, le petit palier pour avoir un titre.
Oui, le petit palier qui pourrait nous emmener à être à rattraper, on va dire, les États-Unis, le Canada et toutes ces équipes, notamment la Suède, qui sont des équipes qui, au niveau du foot féminin, sont très, très bien représentées, en fait.
Juliette ?
Pour parler un peu du PSG de Lyon, je pense que Paris peut avoir sa chance cette année en championnat. Lyon n'a qu'un point d'avance et Paris a quand même gagné le match aller sans sa meilleure joueuse, qui est pour moi Marie-Antoinette Katoto, blessée. Elle devrait sûrement revenir pour le match retour. Donc je pense que Paris peut le faire une deuxième fois.
Bon, c'est bien. Il y a match, hein. Donc ça sera intéressant. Alors juste un petit mot sur les championnats étrangers pour finir sur cette rubrique foot. En Angleterre, donc toujours Arsenal en tête avec 50 points devant Manchester City 45, troisième Manchester United 42. Après la 22e journée.
Tottenham qui a battu Manchester City. Harry Kane, joueur formidable qui devient le meilleur buteur de l'histoire des Spurs. Il mérite tellement mieux que Tottenham, le pauvre. Enfin, il pourra faire 100 ans à Tottenham, il ne gagnera jamais aucun trophée. Et c'est triste pour lui, il mérite tellement mieux. Il y a City qui le voulait il y a deux ans, qui malheureusement le président de Tottenham qu'on connaît, hein, qui a pas voulu libérer le joueur. Mais on lui souhaite vraiment de trouver mieux, quoi. Il va devenir meilleur buteur de la sélection anglaise. meilleur buteur de l'histoire des Spurs, c'est quand même un joueur formidable, un joueur esthétiquement, c'est tellement beau à voir.
Harry Kane qui avait raté ce penalty. Hein.
C'est ça. Qui nous avait permis d'aller. Heureusement, ce jour-là, il n'était pas à point, mais c'est un joueur formidable. Arsenal, City qui ne profite pas du faux pas d'Arsenal. Arsenal, visiblement, qui va finir champion. On a vu Pep Guardiola qui s'est énervé contre l'arbitre en lui disant dégage à la fin du match contre Tottenham. City, ça va être compliqué même en Ligue des Champions. Moi, j'attends de voir City. J'ai l'impression que cette année, ils ont plus misé sur Haaland et De Bruyne, sur des joueurs qui peuvent faire des coups, plutôt que sur le collectif, alors que c'est ce qui réussissait à City. Mm-hmm. Donc, à voir ce que ça va donner sur la fin de saison. Mais moi, je suis un peu inquiet pour City.
Antoine, Juliette ?
Ouais, tant mieux pour Arsenal, parce que pour la première de Jorginho, ils ont perdu. Ça aurait fait du mal aux Gunners, parce que certes, ils ont un match d'avance, mais ils seraient revenus à 2 points. City, alors oui, c'est un peu moins costaud, je trouve, cette année. Ils ont misé sur Haaland. Je pense qu'au-delà des statistiques, ce n'était pas un choix si judicieux que ça. Et comme à vous, je demande à voir en Ligue des Champions. Mais City commence un peu à fatiguer. Je pense aussi à Klopp et Liverpool. Tous ces entraîneurs qui sont là depuis longtemps commencent un petit peu à patauger. Je pense que Klopp peut être licencié. Ils sont 10e.
Mais moi, je ne dirais pas que Haaland, ce n'est pas un choix judicieux. Quand même. Un gars qui met 25 buts en 20 journées, c'est un choix judicieux. Par contre, l'animation autour de Haaland, il y a peut-être autre chose à faire plutôt que de lancer la balle et penser qu'il pourra tout faire tout seul.
Moi, j'ai un peu peur pour City aussi, parce que j'ai peur qu'ils descendent plus bas que ce qu'ils pensent, avec United qui revient vraiment bien. Newcastle fait aussi de très bons résultats, même s'ils ont fait un nul ce week-end. Je pense que ça va être dur la fin de saison pour City.
La loi de l'argent, Philippe, la loi de l'argent. Newcastle, on rachète le club, les Saoudiens viennent, ils posent l'argent, hop, comme par hasard, le club, il se retrouve. En plus, les joueurs à Newcastle, ils ne sont même pas si formidables que ça quand tu regardes. Il y a de très bons joueurs.
Il y a de très bons joueurs quand même.
Oui, Guimarães, Almiron. Non, il y a une très belle équipe. Mais ce n'est pas des joueurs au niveau de Chelsea, pas des joueurs au niveau de City, même pas au niveau de Liverpool, qui cette année est dans le dur. Mais ça se retrouve quand même là.
Ça montre que l'argent ne fait pas tout finalement, parce que c'est pas des joueurs qui ont été achetés 100 millions comme à City et ils sont quand même dans le haut du classement.
À voir quand même. Et Manchester City, en parlant d'argent, il y a la Ligue anglaise qui a ouvert une enquête sur Manchester City sur les 10 dernières années pour voir ce qui s'est passé. Bon courage, ça peut finir en retrait de points tout ça.
Comme la Juventus.
Ça parle de contrats trafiqués pour Pellegrini. Pour Mancini, pardon, qui aurait été payé. Qui auraient été payés à Abu Dhabi et en Angleterre. Attention quand même, là on voit les gendarmes financiers qui se réveillent un peu partout. Attention.
Alors en Espagne, 20e journée, le Barça creuse un petit peu plus l'écart. Premier 53 points devant le Real 45 et Karim Benzema à nouveau blessé.
C'est ça, mais il est fatigué.
Après Mbappé en France, Benzema aussi en Espagne.
Benzema il a fini le jeu. Là il est plus, c'est fini. Il a pris le Ballon d'Or. Il a pris une Ligue des Champions l'année dernière, 5 Ligues des Champions, un Ballon d'Or. Je pense que le football, c'est autre chose. Il a pris sa retraite internationale, on l'a vu avec Raphaël Varane. Je ne sais pas si tu en parles,
Philippe. Aussi, on va en parler, c'est prévu.
Qui prend sa retraite internationale. Ouais. Il est fatigué, Benzema. Le Real Madrid, malheureusement, il n'est pas là, un grand supporter du Real. Mais il vous dira que Pérez aussi, c'est grave. Il y a tellement d'argent au Real, mais il ne veut pas recruter. Il ne veut pas acheter. C'est un milliardaire qui veut rester, qui veut continuer à vivre comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Donc il continue comme ça. À gauche, Ferland Mendy, on a décidé de ne pas prendre de doublure, c'est le petit Camavinga qui y va. À droite, c'est Vasquez, la doublure de Carvajal, alors que de base, c'est un attaquant droit. Quand Tchouaméni est blessé, tu te retrouves obligé de faire du bricolage, etc., à prendre des jeunes. Benzema, il n'a pas de remplaçant, parce que son remplaçant, c'est Mariano. Mariano, au Real Madrid, c'est encore une vaste blague. Donc, quand on a de l'argent et qu'on ne veut pas recruter, ça se passe comme ça, et à voir.
Et le Barça qui m'a impressionné, hein. Rafinha qui a été exceptionnel. Pedri encore un peu dans le dur, là ça fait quelques matchs, il commence à fatiguer, mais le Barça qui est sur 5 victoires de rang, et vraiment ils sont impressionnants, je pense qu'ils vont pouvoir se focaliser sur la Liga, ça fait quand même 4 saisons si je ne me trompe pas qu'ils la remportent pas, donc ça pourrait leur faire du bien.
Vous avez un club fétiche étranger, non? Ça vous intéresse, non? Non, bon, aucun, vous restez
dans le club français. Non, après c'est Tottenham.
Tottenham.
Ouais, malheureusement.
Il y a des gens bien qui supportent Tottenham aussi.
Non. Mélanie,
non,
y a un club,
moi non. J'ai toujours été un peu fascinée par le Real de Madrid. Oui, parce que forcément.
Les 14 étoiles.
Grande époque des Galactiques. Ouais, bien sûr. Mais sinon, non, c'est Paris. Paris avant tout.
D'accord. Alors, en Allemagne, 19e journée, là par contre, un championnat très 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 serré. Le Bayern de Munich, premier, 40 points, devant l'Union de Berlin, 39, 3e Dortmund, 37, 4e Leipzig, 36. C'est peut-être le championnat européen actuellement le plus serré. contrairement souvent à d'habitude où le Bayern survole un peu les la compétition. Là, cette année, c'est hyper serré, hyper compact.
Oui, ben, je m'intéresse depuis cette année un peu plus à la Bundesliga, ouais. Et vraiment, pour regarder beaucoup la Ligue 1 aussi, les jeux n'ont rien à voir. Il y a un espace en défense, les joueurs sont écartés, ça joue beaucoup sur la vitesse. Il y a énormément de buts en Bundesliga. Je fais toujours des paris 1,5 buts et ça passe toujours. Ouais. Donc c'est un championnat alors avec énormément de qualité, mais il est complètement différent.
Mm-hmm. Bon, par contre, plus de suspense pour l'Italie. Hein. Après 21 journées, Naples toujours en tête à 56 points devant l'Inter de Milan 43 et troisième donc l'AS Rome 40. Donc là, il n'y a plus de suspense. Hein.
Non, plus de suspense, surtout qu'il y a eu... Inter Milan-Milan ce week-end. Milan n'a vraiment pas rassuré sur ce match. Donc, non plus de suspense.
Alors, on va parler justement de l'autre événement de cette semaine. C'est la fin de la carrière internationale de Raphaël Varane. Alors, après Loris, après Mandanda, Varane s'arrête à 29 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt?
Moi, je trouvais que c'était un peu trop tôt. Puis, j'ai écouté hier son interview dans le Canal Football Club.
Oui.
Et on voit un garçon avec énormément d'émotions, les larmes aux yeux.
Il est blessé aussi. Hein,
et, qui nous explique que, mais même au-delà de la blessure physique, que mentalement, c'est fini. Quoi.
Ouais.
Il est cramé. Il a commencé à 18 ans. Au Real, il joue au Real à 18 ans. L'exigence qu'il faut pour jouer au Real Madrid, en plus en tant que défenseur central, quand tu commences à 18 ans, c'est fou. 19 ans, il était déjà en équipe de France. 93 sélections, Raphaël Varane. Il y a des joueurs qui commencent, et Christophe Jallet disait ça hier, lui, il a commencé sa première sélection, il avait 29 ans. Et Raphaël Varane, à 29 ans, il en a déjà 93.
Ouais.
Et il nous expliquait juste que mentalement, c'est fini. Quoi.
Ouais.
Il n'a pas le temps de voir sa famille,
oui,
parce que sur les trêves, il est obligé d'être à Clairefontaine ici. Et il n'en peut plus. Et il expliquait que c'est que dans le football, on ne prend pas assez conscience du niveau mental. Et aussi par les sommes qu'ils gagnent, on se dit que c'est des surhumains. Ouais. Mais non, en fait, les mecs, à un moment donné, ça grille.
Il n'y a pas la déception encore de ne pas avoir effacé la défaite de la finale.
Il nous expliquait que si la France avait gagné cette finale, il leur a annoncé sa retraite directe après.
Ah, c'était pas
C'était réfléchi, c'était avant.
Rien.
C'est ça. Il n'en peut plus. Et comme il le disait, je ne sais pas si on se souvient de l'image de Varane qui sort lors de la finale de la Coupe du Monde, mais il est cuit.
Oui,
il
n'en
peut
vrai.
Plus.
C'est vrai.
Il est fini. Et il nous explique que voilà, quoi. Juste, il n'en peut plus. Après, il y a eu les nombreuses blessures. Mais c'est un très grand bonhomme, Raphaël Varane.
Bien sûr.
En club, en équipe de France. Le mec, il n'a jamais rien à lui reprocher. Et comme il le dit, il quitte l'équipe de France, tout est propre. Ce n'est pas une histoire de fédé, ce n'est pas une histoire de coach. Peu importe qui serait venu, lui, il serait quand même parti. Et il a vraiment mis. Le truc sur la question mentale des footballeurs, et il a vraiment mis un point là-dessus, et je pense qu'il faut qu'on s'y penche un peu plus, et il expliquait aussi qu'on leur rajoute plus de matchs, compétition sur compétition, les mecs mentalement ils en peuvent plus, mais la FIFA trouve encore des nouvelles compétitions à créer et tout, et je pense qu'il faut prendre en compte la vie des footballeurs,
en tout cas lui mentalement il en peut plus. En Angleterre en plus on joue traditionnellement pendant les fêtes,
c'est ça.
Chez nous c'était exceptionnel cette année, mais en Angleterre on joue pendant les fêtes. Alors ceci dit, nous on est d'une génération où on a quand même connu certains joueurs, hein, comme Zidane, comme Thuram, qui avaient décidé de s'arrêter sur le plan international après l'Euro 2004, et puis ils sont revenus avec Raymond Domenech pour nous emmener en finale quand même. Hein. Donc peut-être que Varane, d'ici un an, d'ici deux ans, qui sait.
Après, ce qui peut lui faire du mal,
lui, c'est pas, hein.
Derrière, ça revient. Derrière, même, c'est fort. Hein.
Oui.
Le football, c'est un monde ingrat, on vous oublie vite. Là, derrière lui, il y a Upamecano, Konaté, Badiachil, Saliba, Lacroix, il y a des joueurs qui peuvent être. Ouais, c'est fou. Et là, une fois que t'es parti, je pense que c'est fini, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, pour moi, à part si tous les autres flopent, mais je pense qu'il ne reviendra pas.
Ouais. Non, je suis d'accord avec Abou, je pense qu'il ne reviendra pas. D'un point de vue uniquement sportif, je pense que ça va pas faire de mal à la France, même si c'était le vice-capitaine et il aurait peut-être pris le capitanat, ça va être Mbappé, je pense.
Oui, ça sera Mbappé maintenant. Griezmann peut-être dans un premier temps et après Mbappé. Ouais.
Maintenant, je pense qu'il faudra mettre en place une défense Upamecano Konaté. Ouais. Pourquoi pas Kimpembe, mais l'avenir de la charnière française est assuré. C'est triste quand même, 29 ans, c'est un joueur que j'adorais, humble. On n'entend jamais parler de lui pour de l'extra sportif, mais il sort la tête haute.
Mais je vous invite vraiment à écouter son interview sur le Canal Football Club. Moi, il m'a mis les larmes aux yeux quand je l'écoutais. Tu sens que le mec, au-delà du foot, c'est que mentalement, il est fini. Il est brisé, il n'en peut plus. Il part avec beaucoup d'émotions. Raphaël Domenech qui mène à merveille cette interview. Et je vous conseille vraiment de l'écouter, aller en clair sur Canal. Raphaël Varane, très grand joueur.
Alors, ça veut dire qu'il faut tout reconstruire, mais ça, on s'en doutait un peu pour l'Euro. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, Juliette. Hein.
Non, moi, je pense pas. Je pense aussi que c'était la meilleure manière pour lui de finir, parce que, comme on dit, il y a tellement de jeunes qui arrivent. Pour moi, la construction, elle a déjà commencé pendant la Coupe du Monde avec Konaté ou Upamecano. c'est la future charnière. Quand on voit Kimpembe est encore blessé, à mon avis, il ne reviendra pas dans cette charnière.
Bon, le mondial, vous l'avez suivi quand même. Hein,
oui, oui. Et en plus, on l'a suivi sur le parcours du Paris Morangis Foot Golf. Donc, c'était une ambiance magnifique.
Bien sûr.
Et déception à la fin.
Oui, quel beau souvenir. Hein, mais bon, il manque le petit quelque chose à l'arrivée.
C'est
ça. Mais enfin, on a vu une super Coupe du Monde, peut-être même la plus belle depuis très longtemps.
Je pense, oui. Oui, je pense.
Mélène. Non, oui, c'est clair, une belle surprise, parce que qui aurait mis la France en finale au départ de cette Coupe du Monde? Pas beaucoup, à mon avis. En tout cas, dans l'esprit des Français, et vraiment révélation de plein de jeunes joueurs. Je pense notamment à Randal Kolo Muani, qui est en train de tout exploser en ce moment à l'étranger. Et je pense que c'est de très très bon augure pour la suite.
Mickaël, vous avez quand même laissé le foot-golf de côté pendant quelques temps quand même pour suivre les matchs de
Pour la Coupe du Monde, bien sûr quand même, on suit quand même les matchs, les matchs des Bleus, bien sûr. C'était une belle aventure encore une fois. C'est vrai que la fin est toujours terrible quand on est supporter des Bleus.
On vous a fait vivre donc à travers tous les matchs de l'équipe de France. Voilà, allez, on va retrouver notre ami Stéphane Desenclos pour clore ce chapitre foot de cette semaine. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Stéphane, bonsoir. Bon, j'arrive pas à voir, à voir notre ami Stéphane. On va le rappeler. Oui, c'est moi qui dans la précipitation ai pas mis le. Voilà. Ok. Donc on va le faire. On va le faire tout de suite. Oui. On était tellement pris par le point foot que. Voilà, notre ami Stéphane est avec nous, Voilà. Alors, on va bien l'avoir, notre ami Stéphane. Juste un petit mot sur la Coupe de France. Comment vous voyez cette semaine?
Marseille-PSG, là, ça va être chaud. Ouais. Hein, les Parisiens qui viennent à la maison. Les Parisiens qui vont à Marseille, du coup.
Voilà.
Et qui, ça va être un match très, très chaud. Ouais. Ça va être sympa.
Voilà.
Tu m'as pris de court, la fille.
Cette fois-ci, on a retrouvé Stéphane. Hein, c'est moi qui n'avais pas oublié.
Bonsoir à tous.
Pris dans le feu de l'action. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, Stéphane.
Bon, là, tout va bien,
apparemment, il n'y a pas que moi. Donc, est-ce que notre ami Stéphane Desenclos nous entend? Donc,
ouais, pour, moi, que...
Voilà, c'est très bien. Stéphane, tu m'entends? Je t'entends très bien. Ouais. Vas-y, on y va.
Je t'entends très bien.
Voilà. Alors, quelle semaine,
Quelle semaine, et pas que de foot, parce qu'on est en pleine période de mobilisation pour les retraites, et le foot confirme qu'il est quand même bien au cœur de la vie des Français, on est bien d'accord, les amis. Un formidable miroir social qui nous permet de nous identifier. Alors, comment ne pas souligner les deux grosses informations de la semaine, quand même? L'inquiétude de Sandrine Rousseau, la pauvre, pour la retraite de Kylian Mbappé, et justement le départ à la retraite de l'équipe de France, mais de Raphaël Varane, à l'âge de 29 ans. Oui. Alors lui, ne me dites pas qu'il a ses 43 annuités, parce que là, je ne vous croirais pas. Avouons que cette dernière info est un petit pied de nez quand même à l'histoire sociale de la France. Elle reste très perturbante quand même, cette info de retraite de Varane, et en tout cas, pas révélatrice d'une folle ambiance au sein de l'équipe de France. Enfin bon, il y en a un qui s'est chargé de répondre à notre cher député écologiste, c'est le japonais Kazuyoshi Miura, qui, à l'âge de 55 ans, poursuit sa carrière en D2 portugaise, et il a annoncé qu'il comptait jouer jusqu'à 60 ans. Tout ça pour dire que ces problèmes de société n'empêchent pas, bien sûr, la planète foot de tourner vite, même, puisque les joueurs de Ligue 1 viennent de jouer 3 matchs en une semaine avant un tour de Coupe de France, donc ce mercredi. Et dans ces 8e de finale, un match qui nous met tous en haleine, le fameux Classico au Vélodrome. Ne me dites pas que vous n'en avez pas parlé à l'instant. Et là aussi, on s'aperçoit que tout va très vite. Il y a 8 jours, l'OM était archi favori. Le PSG était en détresse dans le jeu, acculé par les blessés, oppressé par le calendrier. Il allait non seulement se faire éliminer de la Coupe, mais risquer aussi de perdre le titre en ce mois de février. Et ce n'est pas un mercato complètement raté qui allait changer les choses. En face, tout réussit à l'OM, les victoires qui s'accumulent, les recrues qui s'additionnent. Et en l'espace d'une semaine, la confiance a changé de camp. 1 point sur 6 pris par l'OM, contre 6 sur 6 par le PSG, bien sûr, pas contre les mêmes adversaires, mais quand même, les courses se sont inversées et Paris débarque au Vélodrome avec une vraie chance de passer. Ce qui n'empêche pas l'OM, selon moi en tout cas, de continuer à être le favori de ce 8e de finale, à condition toutefois que cette fois, Igor Tudor fasse les bons choix. Il n'aligne pas face aux Parisiens la même équipe que face à Nice lors de la première période pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, peut-être aux, aux supporters marseillais en alignant Dimitri Payet d'entrée. Je vais terminer donc justement avec ce match contre Nice. Nice qui est le vrai coup de cœur de la semaine. Les Aiglons sont les seuls en Ligue 1 à avoir gagné leurs trois matchs, dont un succès à Bollard, où les Lensois n'avaient pas encore concédé le moindre point depuis le début de la saison, avant cette victoire donc hier soir à Marseille, qui restait sur 9 matchs de suite sans perdre. Le tout avec sur le banc l'ancien coach de la réserve, Bombardier numéro 1 à la place de Lucien Favre, illustre entraîneur suisse qui, lui, n'a pas réussi dans sa mission. Il y a aussi eu un très beau recrutement avec Mofi et Enda Hichimi, Nice qui a tout pour être donc l'équipe de ces matchs retour, contrairement à un OL qui certes a gagné à 3, mais qui ne m'inspire en tout cas pas du tout confiance, tout comme les propos de Jean-Michel Aulas ne m'inspirent pas confiance. Aulas qui continue à faire comme si pendant 3 ans, toute une partie de l'histoire du club lui avait échappé contre son gré. L'âge de la retraite, lui, ça fait un moment qu'il l'a dépassé.
Oui. Effectivement. En tout cas, ça nous promet de belles semaines, hein, Stéphane.
Ouais, super
ça y est,
semaine.
Mais tu foutes et bien reparti. Hein. Voilà.
Des super matchs. On a assisté à un très beau match. Quoi. Moi, je me suis régalé hier devant le match entre l'OM et Nice. Et je pense qu'on va avoir le même genre de match, certainement mercredi, quand les Marseillais vont rentrer dans les Parisiens.
Très bien.
Ça va être intéressant.
Très bien. Stéphane, merci. Donc, une chronique qu'on peut retrouver dans le quotidien du sport.fr, hein, comme chaque semaine.
Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme chaque semaine, elle est liée déjà, là. Déjà en ligne.
Très bien.
Pas bien.
Merci, Stéphane.
Bonne soirée, les amis.
À la semaine
prochaine.
Bonne
soirée à tous et à toutes.
Salut.
Au revoir.
Voilà.
Par
allez.
Contre, ce n'est pas 1 point sur 6 pour Marseille, c'est 3 sur 6.
Très bien. Allez, la pause musicale, chemise, She Can't Love You. Et ensuite, on va parler de foot golf.
I saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I can. She can't love you. You too, baby. Well. is wrong.
Voilà, alors comme promis, ben, on va parler d'un sport relativement récent, le foot-golf, avec donc nos invités hein, qui naturellement sont intervenus et ont suivi avec beaucoup de passion ce point foot. J'ai envie de vous dire, Mickaël, que d'abord tous ceux qui viennent du foot, qui sont au foot-golf, viennent du foot. Il y en a quelques-uns qui viennent du golf.
À la plupart viennent, bon, on va dire 100% quand même des foot-golfeurs. Ouais, ouais. On joue au foot. Ouais, il y a très, alors, il y a des foot-golfeurs qui jouent au golf, bien sûr, oui, mais il n'y a pas de purs golfeurs qui se sont mis à jouer au football.
C'est peut-être plus compliqué pour eux de s'initier au ballon.
Oui, peut-être, peut-être. Ouais. Et puis disons que quand on est footeux, c'est vrai qu'on a tout de suite, on prend tout de suite goût au football parce qu'on retrouve la technique du football, donc on se retrouve tout de suite.
Alors, question simple, qu'est-ce qui vous a fait passer au foot-golf? Parce que bon, c'est vrai que dans le foot, maintenant, de plus en plus, il y a des activités un petit peu dérivées. Il y a le foot en salle, il y a le foot à 5, il y a le beach soccer, il y a maintenant du foot-golf. Pourquoi le foot-golf? Vous aviez besoin d'une petite nouveauté, d'une petite...
D'une petite nouveauté, oui. Et puis, j'aime bien tous les sports dérivés du ballon, du ballon rond. Et donc, du coup, quand on essaye le foot-golf, c'est vrai qu'on devient tout de suite accro, c'est vrai. Mes coéquipiers qui sont là pourront vous le dire. Et c'est vrai que, bon, on a essayé les autres sports, le foot net, il y a eu le jockey ball, il y a eu le five aussi.
Ah oui, il y avait le jockey ball aussi,
Je pense que j'ai tout essayé. Ouais. Et c'est vraiment le foot golf qui m'a le plus passionné pour franchir le pas et de se dire, allez, je me mets dans le foot golf et je fais des saisons. Et puis, et puis voilà.
Alors, pourquoi? Parce que c'est un sport en plein air ou alors parce qu'il y avait une petite portion de golf qui était aussi un sport qui vous plaisait?
C'est un tout. En fait, je pense que quand on est footeux, on ne se rend pas compte en fait du fait que quand on est c'est un sport collectif et on a toujours l'impression de faire bien. Mmh. Et en fait, quand on fait du foot-golf, on est tout seul sur le terrain et on voit que finalement, quand on rate, c'est juste de sa faute. Et en fait, c'est ce truc-là qui fait que, comme dans tous les sports individuels, j'imagine, quand on prend goût à un sport individuel, on a envie de faire mieux pour soi-même. Et du coup, comme ça concerne le foot, forcément, on y revient une deuxième fois, une troisième fois, et puis on voit qu'on s'améliore. On prend plaisir et on continue.
Ouais. Mélanie, vous, l'ancienne joueuse du PSG, ça aussi, c'est les mêmes sensations que vous avez donc ressenties en pratiquant le foot-golf. On va rappeler, vous avez fait votre première sélection. Hein.
Oui, exactement, première sélection pour moi qui s'est inaugurée par le premier rassemblement Team France ce week-end, du coup, qui s'est terminé hier. En fait, c'est surtout le Covid qui m'a rapproché du foot-golf parce que arrêt du foot à 11, passe sanitaire, terrain fermé, etc. Donc très compliqué. Et sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai vu ça. Et j'en avais marre de pas pouvoir faire de sport, entre guillemets. Et donc, let's go, c'est parti, on prend son ballon. Et puis, grâce à Mika, on a fait une initiation. Et puis, tout de suite, en fait, j'ai retrouvé le plaisir de taper dans le ballon. Mais avec un intérêt hyper ludique derrière. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, d'ailleurs, c'est ce que font tous les footballeurs. Au départ, c'est l'objectif taper fort. En fait, non.
Ah oui, là, oui.
Non.
Là,
puis, voilà. Il faut monter une stratégie de jeu, un plan de jeu. Et mentalement, il faut rester focus jusqu'à la fin, en fait. Mmh. C'est ça qui est intéressant.
Quentin?
Oui. Moi, pour ma part, ça a commencé. J'ai joué au foot. Ouais. Et en fait, un de mes entraîneurs, quand j'étais petit, en fait, est dans l'équipe de France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai contacté. Et ça fait maintenant 3-4 ans que je pratique ce sport. Et un peu pareil que mes collègues, le football, c'est un sport hyper addictif.
C'est comme le golf, il paraît. Hein.
C'est exactement ça, en fait.
Quand on commence le golf, c'est addict après, il paraît.
C'est un sport où on teste une fois, on se demande qu'est-ce que c'est. Et en fait, on prend tellement goût et de plaisir en fait, à jouer. Qu'on remet ça en fait à chaque fois, même si à des moments donnés on peut prendre un mauvais score, mais on revient quand même pour essayer de l'améliorer.
Alors, comment se structure aujourd'hui ce sport? Est-ce que vous êtes sous l'égide de la Fédération française de football? Est-ce qu'il y a une association à part? Comment ça se réglemente tout ça?
Alors déjà, il y a l'Association française de footgolf, donc la FFG. Donc c'est sous leur impulsion que le footgolf est arrivé en France en 2013.
C'est une association qui est reconnue par le ministère des Sports, non? Par les pouvoirs publics,
pas encore? C'est pas encore reconnue par le ministère des Sports, parce qu'il y a quand même quelques critères à avoir. Oui. Par contre, il y a une convention qui a été faite avec la 3F, justement, déjà l'année dernière et qui a été renouvelé cette année, donc qui permet de faire découvrir le foot golf à tous les districts de football et puis à tous les clubs qui veulent s'essayer à ce sport.
Alors il y a combien de clubs en Île-de-France déjà?
En Île-de-France.
Alors Paris-Morangis, ouais. C'est le premier. Hein.
Alors Paris-Morangis, hein, c'est le premier, ah, voilà. Oui. Premier
c'est
club,
pour ça que vous êtes invité en plus.
Premier club en Île-de-France et troisième club à avoir vu le jour en France avec Marseille. Et Gex, voilà, une petite, Gex, c'est une petite ville.
Oui, c'est dans les Vosges,
près de la Suisse.
La Suisse, ouais. Il me semblait bien, ouais.
Et donc, en Île-de-France, il y a 5 clubs de foot-golf et une trentaine en France.
Mmh. Alors, pourquoi vous êtes associé à Morangis?
Tout simplement.
Qui est une ville de l'Essonne, on va rappeler, hein, près de Longjumeau et Chimazarin.
Exactement. Voilà. C'est une ville de l'Essonne et en fait, à Morangis, il y a un parcours donc, qui s'appelle le Foot Golf Green Park, oui, de Morangis, qui a ouvert récemment, dédié au foot golf. Mm-hmm. Donc, c'est le premier parcours dédié au foot golf en Île-de-France. Et donc, voilà, tout simplement, le rapprochement s'est fait pour avoir un parcours à domicile. Et du coup, le changement de nom du club a changé de Paris Foot Golf Club à Paris Morangis.
Oui, parce que c'est là que vous pratiquez votre sport. Des terrains adaptés, il n'y en a pas encore des masses.
Des terrains 100% adaptés, il n'y en a pas des masses. Oui, il y en a peut-être 3 en France, mais sinon, il y a une cinquantaine de parcours qui sont ouverts au foot golf. Donc, c'est sur des vrais parcours de golf. Mm-hmm. Et puis, les installations foot golf sont sur ce même parcours.
Du coup, comment marchent les matchs en équipe de France si c'est individuel? Ça marche
on
un
va
peu
y
comme,
venir, hein, mais vas-y, c'est bien.
Comme
c'est
la
bien,
Coupe Davis où il y a plusieurs joueurs ou comment ça se passe?
Alors, pour la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde qui va se dérouler donc en mai prochain à Orlando, mm-hmm, il y a plusieurs compétitions dans cette Coupe.
Elle affiche d'ailleurs, Mélanie, elle a l'affiche. Hein, on aurait... voilà, donc elle est devant nous, mais on essaiera de la reprendre en photo. Ouais, ouais. Vas-y.
Donc, il y a la compétition individuelle et ensuite, par nation, c'est sous système de match play. Voilà, ça s'appelle match play. Donc, les golfeurs pourront comprendre les expressions parce que voilà, tout le lexique du foot golf est tiré du golf, déjà.
Oui. D'accord, ça, c'est des questions aussi qu'on allait poser. Ouais. Il n'y a pas des expressions spécifiques?
Ah, il y a pas alors il y a des expressions certainement spécifiques c'est-à-dire au foot golf, mais dans les règles non.
Quand vous jouez,
on
joue
sur le green.
Ouais, on joue sur le green, c'est ça, on putte, on fait des birdies, des eagles, surtout des bogeys.
Ah oui, c'est vraiment très golf quand même hein, comme expression. Hein.
Et donc je reviens donc à la compétition par équipe. Donc ça sera par équipe de 16, je crois, pour chez les hommes et chez les féminines, ça sera des équipes de 10. Mm-hmm. Et donc il y a tous les points seront comptés. Donc il y aura par exemple chez les féminines, puisque Mélanie est là, il y aura 4 ou 5 joueuses en individuel, et puis il y aura 2 ou 3 doublettes. Donc voilà, et on affrontera les autres nations.
Donc ça veut dire, pour reprendre, pour enchaîner sur la question d'Antoine, que c'est un sport collectif et aussi individuel. Il y a deux sortes de compétitions.
Il y a deux sortes de compétitions, et par exemple quand on prend le championnat de France, finalement tout est compilé lors de la même journée. On joue pour soi-même, mais en même temps, les points qu'on va prendre pour soi-même vont être attribués à notre club. Donc, c'est un sport individuel, mais on retrouve quand même le côté collectif qu'on aime bien au foot.
Ouais. Est-ce que vous avez des classements individuels type comme au golf ou bien au tennis, par exemple?
Est-ce que Quentin, tu peux répondre peut-être?
Ouais, Quentin, il peut peut-être parler.
Donc, il y a des classements, il y a des classements individuels. Et comme au golf, effectivement, alors déjà dans le championnat de France, forcément, puisqu'on prend des points à chaque étape. Il y a une trentaine d'étapes sur le circuit français. Ouais. Il y a aussi un tour européen et aussi un World Tour. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace aussi, puisque c'est un des joueurs qu'on connaît. Il n'est pas de notre club. Il s'appelle Cédric Bonneau. C'est le numéro 1 mondial. Voilà, pour dire qu'on prend des points sur tous les tournois. Et puis, il y a un classement un peu comme au tennis. Oui, effectivement.
Alors, mais quand on commence votre sport, on part sur quel classement?
Ah, on part de zéro totalement.
Voilà, d'accord. Oui. Okay. Après, il faut gagner des matchs, il faut gagner des compétitions pour.
C'est revenu à zéro à chaque, à chaque saison.
Chaque saison. On part à zéro chaque saison.
Aussi bien pour le championnat de France que pour le World Tour. Alors, il y a un index qui a été établi dès 2014, en fait, donc qui correspond aux scores sur lesquels on joue à chaque tournoi. C'est juste à titre indicatif. Pour avoir commencé un index. En fait, au golf, il y a déjà un index et c'est sur ça qu'ils sont basés les tournois. Pour l'instant, on n'utilise pas encore ce système-là parce que finalement, on est au début du sport.
Mmh. Et alors, donc, combien de compétitions par an vous faites à peu près? pour un cadre ?
Alors, en moyenne, on en fait 25, que ce soit sur le tour régional, puisqu'il y a des tours régionaux qui sont... Il y en a 8 en France, donc il y a le tour régional en Île-de-France. Tour régional, il y a quelques petits événements en Île-de-France. Il y a bien sûr donc, la Foot Golf Cup, donc c'est le nom donné au championnat de France. Et après, il y a des tournois internationaux sur lesquels on peut jouer, comme l'Open de Suisse, l'Open de Belgique, et par exemple l'Open de France, donc l'Open de France qui est un des tournois majeurs dans le monde, un petit peu à l'image de Roland-Garros, on pourrait le comparer au tennis.
Et donc, vous vous engagez comme ça ?
C'est ça qui est bien au foot golf, c'est qu'on peut participer, par exemple, demain vous pouvez participer à l'Open de France.
D'accord.
Et vous allez tomber contre...
je vais m'inscrire.
Bah, tu peux t'inscrire, oui, avec plaisir. Y a même, d'ailleurs, ce qui est bien d'ailleurs au foot golf, c'est qu'on peut commencer par le double. Donc on peut jouer l'Open de France en double, c'est une belle découverte sur un parcours incroyable. Il y a 300 joueurs venus de tous les pays, il y a des Japonais, des Américains qui viennent. Et donc, on peut être dans le squad avec le numéro 1 mondial donc français. On peut être avec le champion du monde argentin dans le même squad pour débuter le football.
Tu gâcheras la misère si on joue en double.
Alors, justement, on s'inscrit dans une compétition. Et c'est en combien de points ? Combien il y a 16, 17, 18 points à faire dans le parcours ?
C'est comme au golf, il y a 18 trous, c'est un parcours 18 trous. Cherchais, donc principalement maintenant, il y a quand même 2 rounds qui sont joués, que ce soit sur les Open, d'ailleurs même l'Open de France, il y a 3 rounds, mais en France sur le circuit français, il y a 2 rounds, le samedi et dimanche, donc 2 fois 18 trous, comme sur un parcours classique de golf.
C'est le même principe, il faut mettre le moins de temps possible.
Il faut effectuer le moins de coups.
Différents points, aux différents
trous numéro 1 peut être un par 4, on peut le faire en 3, en 5 ou en 10, exactement comme les mêmes règles du golf, sauf qu'on utilise la technique du football.
Et alors, justement, il y a des ballons spécifiques quand même. Et je sais qu'il y a des ballons qui valent très cher.
Il y a des ballons qui valent très cher. Et là, je pense que Quentin est plus calé que moi, je pense, sur les ballons.
T'es pas plus... C'est si. Ah, vas-y.
Oui, c'est des ballons qui sont...
Je sais qu'il est calé, donc voilà.
C'est des ballons qui coûtent un peu cher, en fait, parce que ça reste, en fait, de l'ancien. Les ballons qui sont faits aujourd'hui, c'est pas les mêmes, les mêmes composants qu'il y a 10 ans.
Partout, même pour les matchs de foot actuels.
Voilà, c'est pareil. Ça. Et du coup, le ballon, je dirais, qui vaut le plus cher au football, ce serait le fameux Jabulani. Le ballon de la Coupe du Monde 2010, où en fait il était décrié par tous les footballeurs.
Ah oui, je me souviens, il flottait.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, pour nous, en fait, c'est un ballon qui est idéal parce qu'il fait que rouler, il fait que avancer, et nous, c'est parfait pour les footgolfeurs.
J'ai vu beaucoup de footgolfeurs, notamment dans différents médias, qui témoignaient justement qu'ils étaient prêts, dès qu'il y avait une annonce de ce ballon-là, ils allaient directement le chercher.
C'est ça,
des prix mirobolants. Parce que justement,
c'est combien les prix ?
Je sais pas, mais dans le reportage, c'était 300 euros. Ça
monte un peu
300,
plus.
400, 500, mais
ça peut monter très vite.
On peut aller très très haut. Hein, parce que en fonction, il y a le Jabulani, donc il y a beaucoup, beaucoup de participants qui ont ce ballon-là. Mmh. Et ensuite, il y a sa version, on va dire, prime, qui est le Jobulani, et qui, lui, du coup, est bien plus cher. Quoi. Donc ça, c'est des ballons qui sont... De toute façon, pour jouer au football, il faut un ballon thermocollé.
Mais ça, c'est chaque pratiquant et chaque pratiquante qui doit avoir son ballon.
Exactement.
Comme on a son caddie de golf, eh ben...
C'est ça.
C'est ça.
Ah oui.
Ils l'ont depuis. Ils disaient, moi, dans le reportage, je l'ai depuis 5 ans, je le garde et je vais jamais le. Genre, dès que je le perds ou quoi, je vais le chercher direct parce c'est une perle rare.
Mais après, pour tout nouveau adhérent, on n'est pas obligé de mettre ce prix pour un ballon. On peut commencer très bien avec un ballon lambda et découvrir déjà le sport.
D'accord. Et on met combien de temps quand on commence comme ça le foot golf pour arriver donc à un niveau, j'allais dire, correct, parce que c'est vrai, on dit que c'est addict, mais on commence, il faut jouer pour commencer à progresser et arriver à un bon niveau.
Il n'y a pas de spécificité de temps, en fait.
Après, ça dépend des individus.
Ça dépend des individus. En fait, il y a beaucoup d'anciens pros qui sont essayés au footgolf. Tout à l'heure, on parlait d'Habib Bey.
Ouais.
Ça a été un des premiers à essayer le footgolf en 2013.
D'accord.
Il a fait quelques étapes. Il va revenir, on l'espère, parce qu'à chaque fois, on le voit, on le croise et on lui dit de revenir. Mais bon, il a le planning qui est chargé, du coup, maintenant.
Ouais. Alors que Comboiré et puis Bogossin sont très bons au golf.
Ils sont très bons au golf.
Je ne sais pas s'ils sont bons au foot golf.
Bah, ils ont essayé une fois, justement, quand la finale de la Foot Golf Cup était à Marrakech, à l'époque. Il y avait pas mal d'anciens joueurs pros qui étaient présents. Ils sont essayés au foot golf. Mais sinon, en fait, il n'y a pas de spécificité de temps, comme tu m'as posé la question tout à l'heure. Parce que, en fait, ça dépend... Comme c'est un sport individuel, il y a beaucoup de concentration et beaucoup de mental. Il ne suffit pas simplement d'être technique ou d'avoir une puissance de frappe. Si on a tout ça et que finalement, mentalement, on n'est pas concentré, on ne va pas arriver, on va la mettre au bout d'un moment dans le trou. C'est facile finalement. Mais si on le met en 5, 6, 7 fois,
en 20 coups.
Voilà, si on n'est pas concentré, que, voilà, c'est le mental. Il y a 60% de mental dans le foot golf.
Donc c'est comme le golf, il y a le handicap, c'est ça. C'est ce qu'on appelait, on cherchait les mots, c'est le handicap, c'est ça.
Alors tout à l'heure, oui, c'est ce que je disais par rapport au classement. Il y a le handicap qui rentre en compte, mais c'est.
Ah, mais il y a quand même une façon particulière de taper le ballon. Techniquement, ça doit être quand même.
Alors disons que c'est la même technique qu'au foot.
Oui, on peut le conseiller à tous les footballeurs de faire du foot golf pour justement améliorer
Il y a la beaucoup.
Il y avait Platini qui s'entraînait avec les murs, lui. Et
Oui, il y a beaucoup de clubs de foot, aussi bien amateurs que même pro. Je crois que c'était le Real Madrid. Ils les ont essayé une fois le foot golf. Ouais. Je crois que Liverpool aussi a fait. Tottenham aussi
dans le Tottenham Hotspur.
Il faut parler devant
le
micro.
Dans le Tottenham Hotspur, il s'était fait un petit délire comme ça, en fait, tout autour du stade. Et à la fin, je crois qu'il s'était fallu le mettre dans une poubelle. Donc,
il y a lucarne à Évry aussi. Hein, dedans, hein. C'est le jeu aussi. Hein.
Ah oui, la lucarne d'Évry.
C'est le jeu. Donc ça nécessite quand même une certaine dextérité. Ça n'arrive pas comme ça.
Non, ça n'arrive pas comme ça. Après, je pense que les gestes, ils s'adaptent vraiment au foot golf. On va dire que le premier coup, donc ce qu'on appelle le drive, on ne va pas frapper comme si on faisait une transversale à un coéquipier, parce que le coéquipier, il est là pour le réceptionner, tandis qu'au foot golf, il n'y a rien. Donc il va continuer son chemin, soit dans un bunker, dans un plan d'eau, dans un arbre.
Et si ça tombe dans l'eau
Si ça tombe dans l'eau, pénalité, on reprend le ballon et on recommence. Et puis, du coup.
On ne joue pas le.
Non, après, on peut jouer dans les bunkers, donc c'est pour ça. Alors, c'est des petites différences. Autant c'est le même lexique qu'au golf. Par contre, quand on tombe dans un bunker, c'est pied d'appui fixe. Donc après, c'est la petite difficulté qu'on retrouve dans un bunker au foot golf. Un peu comme au golf, en fait, on n'a pas le droit de coup d'essai. Et ben là, on n'a pas le droit d'avoir de pas d'élan dans un bunker.
Bon, Valentin, ça te tente pas d'essayer comme Antoine, vous allez aller essayer là.
J'avais déjà essayé le foot golf il y a 2 ans. Je suis catastrophique, faut être sérieux. Mais j'ai fait qu'une fois, donc comme on dit, plus on s'exerce, plus on apprend.
Oui, c'est ça, c'est addict.
Mais c'est ça, en fait, on a le réflexe, on voit le ballon et on a l'envie de juste, on voit au fond le trou, on se dit bon, si je tape fort loin, ça va aller. Mais en fait, pas du tout. Il faut avoir la technique. Et il y avait des collègues à moi qui avaient beaucoup plus de technique, ce qui m'a rappelé mon niveau de jeu au foot catastrophique. Et franchement, c'est beaucoup de mental, parce que quand tu vois que tout le monde y arrive et que toi tu es en plus en difficulté, que tu n'y arrives pas, et tu as envie d'arrêter très vite, alors qu'il faut avoir de la délicatesse et pas trop forcer sur ton.
Alors, justement, comme vous êtes dans une compétition, vous demandez le calme absolu autour de vous, ou alors beaucoup d'enthousiasme parmi les spectateurs, les spectatrices, les supporters, les supportrices?
Ouais, c'est un petit peu à l'image de.
Parce que là, c'est un mélange du foot et du golf. Alors, le golf, c'est plutôt calme. Le foot, il y a de l'ambiance, quoi.
Non, effectivement, ça reste. En fait, il y a des règles. On n'a pas le droit de parler. En fait, déjà, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de parler. En fait, ça se fait en squad, si vous voulez. Donc, on est des équipes de 4 ou 5 joueurs pour aller au trou. Et on n'a pas forcément le droit de parler avec les autres équipes.
Oui, mais on peut s'encourager entre soi. Non, pas trop.
Le caddie, on a le droit de parler à son caddie, effectivement. Ouais. Donc la personne qui va être avec nous. Mais c'est tout. Donc même les supporters, en général, sur les derniers trous, quand vous avez la fin qui arrive, il peut y avoir 50, 60 personnes qui vous regardent. Et bien, quand vous arrivez, tout le monde fait un petit peu de bruit. Par contre, au moment de jouer, c'est un calme plat, quoi, effectivement.
Ouais. Et un 18 trous, vous le faites en combien de temps? Grosso modo, 2 heures, 3 heures. Oui, c'est ça,
à peu près c'est ça.
Ouais. Pour les meilleurs, non? Lambda.
Bon, on joue à peu près tous à la même vitesse. Oui. J'aurais même tendance à dire que les meilleurs jouent plus lentement, justement, parce qu'ils réfléchissent. Ils sont un peu moins spontanés. Ouais.
Vous avez un temps imparti pour taper le ballon, ou vous pouvez réfléchir 10 minutes avant de jouer?
En fait, normalement, entre chaque coup, en fait, le temps qu'on qu'on trouve la bonne ligne, on a à peu près 40 secondes.
Ah oui, c'est
un rapide peu comme le quand même. Hein. Où ça t'a
Ouais, vous n'avez pas deux minutes de réflexion, vous essayez de, de vous positionner par rapport au ballon, vous pouvez étudier un petit peu le. Ah oui.
Bah, en fait, on a un délai très court parce que derrière nous, il y a aussi des squads qui arrivent, donc on ne peut pas rester 15 minutes sur un trou. Donc on essaye de trouver le plus rapidement possible la ligne la plus parfaite pour essayer de terminer le plus rapidement possible.
D'ailleurs, on peut se faire pénaliser si on met trop de temps à jouer un trou, justement. Ouais, c'est effectivement, au départ, on a des avertissements.
C'est-à-dire pénaliser, qu'est-ce qu'on a ? On retire quoi ? On retire.
Au départ,
on prend. Ouais, c'est ça. Ouais, plus un.
On a des avertissements. Ouais, donc on a un responsable entre guillemets qui s'appelle le marshal qui vient vous prévenir que vous mettez un petit peu de temps. Donc en gros, on doit accélérer un petit peu la manière de jouer. Mmh. Et si ça se réitère un petit peu trop de fois, et au bout d'un moment, on prend un coup de pénalité, quoi.
Comme au tennis.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors comment on arrive à faire le vide ? Parce qu'il faut faire le vide, hein. faut être dedans. Hein.
Si vous voulez, il y a plein de...
Ouais. Sophrologie, yoga...
Beaucoup de préparation mentale, notamment beaucoup de bouquins de golfeurs en fait. Oui. Parce que si vous voulez, c'est exactement pareil que le golf. Mmh. Sur l'aspect mental en tout cas, c'est le golf. Mmh. Donc à part l'approche des coups, etc., qui peut différer, sinon c'est exactement pareil. Donc il faut trouver sa routine de putt, parce que moi, par exemple, je prends l'exemple de mon frère qui a commencé le foot golf à l'Open de France avec Mika. Lui, il vient du monde du football. Ouais. Un ballon à 3 mètres du trou, il le rate. Parce qu'en fait, il pense foot, il pense pied du copain juste en face et en fait, il dose pas. Donc c'est analyser la ligne, réfléchir, préparer son coup et en fait visualiser le ballon qui arrive jusqu'au trou.
Mm-hmm. Et la taille du trou, du coup, c'est pas juste la taille de la balle ou comme au golf ?
Non, il fait 52, entre 50 et 52 centimètres. Normalement, on peut mettre jusqu'à 3 ballons dedans. Enfin, ça fait 3 ballons. D'accord.
Sinon, la pelouse, c'est la même. C'est la même que sur un green de golf.
Ah oui. Oui,
il n'y a pas de...
Y a les parties qui sont... Il y a le fairway, il y a le rough, il y a le green.
Il n'y a pas de synthétique, quoi. Si ? Non, pas trop.
Non.
Ah ouais. Mmh. Et l'équipement ? Alors, c'est l'équipement d'un footballeur ou alors plus l'équipement d'un golfeur ?
Ce sport c'est ça, c'est foot golf, donc on va avoir en fait un mélange de foot avec les chaussettes hautes et on va avoir en fait un bermuda comme les golfeurs et après un maillot qui représente notre club. Alors quand il fait froid, on a
c'est le crampon.
Alors chaussures, on a ce qu'on appelle les chaussures stabilisées. Maintenant, ils appellent ça les chaussures aussi semelle turf. Oui. Et du coup, c'est les tout petits crampons de stabiliser.
Mm-hmm. Ça coûte cher, un équipement comme ça. On en trouve partout parce que c'est un sport qui est un petit peu confidentiel. On l'a dit. Est-ce que si demain, Antoine et puis Valentin ou même Juliette, ils veulent aller faire un tour, ils vont trouver une paire de chaussures facilement ?
Ah oui, en fait c'est les chaussures de foot classiques qui sont des stabiles, un bermuda on le trouve partout, chaussettes hautes aussi, un polo aussi, voilà. Et puis le ballon, comme il a dit Quentin tout à l'heure, on n'est pas obligé d'utiliser un ballon de foot golfeur, on va dire maintenant, on peut utiliser n'importe quel ballon et on va tout de suite s'amuser au foot golf.
Bon, quelles sont les compétitions les plus importantes dans une saison, donc sur le plan français, il y a quoi ?
L'Open de France, qui est un rendez-vous incontournable. Alors cette année, ça sera après la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde, c'est mai-juin. Et d'habitude, ça se déroule en juin. L'Open de France, là, ça sera en juillet. Okay. Et ça se passera au Golf Park Robert Hersant, c'est proche de Dreux.
D'accord, ok.
Voilà, un golf
sinon,
incroyable.
Il y a des championnats classiques, traditionnels, championnats européens. Donc, on l'a dit, compétitions individuelles qui aussi peuvent être compétitions collectives.
Oui, c'est ça. En France, donc, il y a la
Football Cup. Et on peut briller dans les deux domaines, individuellement et collectivement.
Ah, dans les deux, les trois domaines, j'ai envie de dire, parce qu'il y a individuel, il y a en double, et après il y a donc par équipe, donc parce qu'il y a la Coupe de France aussi, par exemple, auquel on va s'inscrire cette saison avec le Paris Morangis, et donc on va affronter donc les autres équipes en match play, donc à 8 contre 8, en individuel et en double, et tous les points de l'équipe comptent. C'est le côté collectif du foot qu'on retrouve dans ce genre de formule.
Et il y a combien de licenciés hommes et filles actuellement ?
Il y en a environ 4000 en France. 4000, voilà. Et puis après, alors dans le monde, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on s'approche des 25 000.
C'est pas un sport très cher encore. Si on veut prendre une licence, une cotisation dans l'association, ça...
Ah bah, au niveau des adhésions, non, c'est des adhésions classiques comme dans toute association sportive. Après, la différence, elle se fait qu'on paye les inscriptions au tournoi, étant donné qu'on joue quand même sur des golfs. Donc le golf est déjà un sport qui est pas abordable tout de suite. Le foot golf, il est un petit peu en dessous quand même le golf. On peut quand même plus facilement y accéder que sur des tournois de golf.
C'est combien par exemple les prix en moyenne pour ceux qui nous écoutent, peut-être intéressés.
Alors en moyenne pour participer à une journée de foot golf, on va dire que c'est 100-120 euros. Voilà, on va dire que c'est la moyenne. Maintenant sur le tour régional et sur des petits événements. Pour 50 euros, en fait, on fait toute la journée et il y a une totale découverte pour les novices.
Mais c'est vrai que c'est tentant parce que j'étais au foot la semaine dernière et avec un ami, on s'amusait à mettre la balle dans le corner. Donc en fait, c'est.
Je te dis, tu vas aller faire l'initiation.
Ouais, je vais y aller
à Morangis, ça va, pas de problème.
Mais c'est vrai que c'est une alternative.
Et puis Juliette aussi, c'est veut.
Peut-être que vous avez vu cette vidéo où justement l'équipe de France, lors de la Coupe du Monde, justement au Qatar.
Oui,
on voyait qu'il jouait sur un corner.
Voilà,
c'est ça. Et peut-être que cette idée, elle vient de Griezmann, parce que son frère Théo a essayé le foot golf quand il y avait l'étape de Lyon.
D'accord.
Voilà, comme il est à côté. Du coup, il était invité à essayer.
D'accord.
Et voilà.
Allez, on écoute la deuxième pause musicale, Kanye West Fade, et puis on se retrouve pour la fin de cette émission consacrée au foot golf. On y va. Your love is faded. Your love is faded. Your love is fading. I feel it fade. When no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Well, ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it. Fade away. I feel it. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love the. I wanna. I'm tryna. I feel it. I'ma rock the boat. Work the middle till it hurt a little. I feel it. Your love is fading. I feel it. I'm with a real ass nigga. Can you feel last nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. Whoa! When no one ain't around. I feel it, fade. I think too much. I feel it, fade. Ain't nobody watching. I feel it, fade. I just fade away. I feel it. You don't need me, no. I've been so far gone. I've been so let down. I've been running. I feel it. I've been on my shit. Hold on my feet. I just need you now. I can feel it. Deep inside, deep down inside. I feel it. Deep inside, deep down inside. I feel it. I feel it. Deep inside, deep inside. I can feel it. Deep inside, deep inside. I 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 feel it, babe. I feel it, babe. Fade. Voilà, toujours avec une émission donc, consacrée au foot-golf, émission que vous pourrez réécouter en, en podcast, hein, sur les réseaux sociaux, comme toutes celles aussi de cette saison, notamment avec notre ami Guy Michelin de la semaine dernière, ou la MRP, la Maison Régionale de la Performance, il y a 15 jours. Tout ça, ça, c'est sur nos réseaux sociaux, et vous pouvez même remonter jusqu'à un an, hein, puisque c'est notre émission anniversaire. Alors, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes pour présenter votre sport? Est-ce que vous recevez, par exemple, du monde pour un téléthon ou même pour les écoles?
C'est déjà arrivé, ouais. Et puis ça va arriver encore plus justement grâce à ce parcours. Donc on parlait tout à l'heure au Green Park de Morangis. Mmh. Comme c'est un parcours dédié, on va pouvoir faire des journées portes ouvertes et inviter des écoles. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Mmh. Alors un peu moins cet hiver, mais comme il a ouvert en septembre dernier, en septembre-octobre, il faisait encore bon, et du coup, il y a des écoles qui se sont essayées à cette discipline.
Ah, mais c'est promis, ils vont venir. Ils vont venir. Allez, les trois, plaisir, Juliette, Antoine, Valentin, ils vont venir. C'est bon. Ils vont venir s'initier.
Et puis à vous aussi.
On peut en vivre de ce sport, en France ou même à l'étranger?
Alors, il y en a quelques-uns qui en vivent. C'est comme tous les sports amateurs, ça débute. Donc forcément, c'est, on va dire, grâce aux sponsors que les 4-5 dans le monde arrivent à en vivre. Il y a deux Argentins, deux Anglais. Il y a
en Amérique, sûrement.
Et ben aux États-Unis, pas encore. Effectivement.
Ça va venir
progressivement. Ouais. Ils ont été champions du monde en 2016, mais du coup, ça n'a pas décollé à plus que ça. Il y a quelques parcours, mais on va dire que bon, les États-Unis sont bien avancés, tout comme la France et l'Angleterre au niveau du foot-golf.
Ce sont les pays qui dominent.
Les trois pays que je viens de citer, il y a la Hollande, il y a l'Italie et il y a l'Argentine. Voilà les pays qui... et le Japon aussi.
Alors, Mélanie, il y a une Coupe du Monde. Hein, donc, c'est bientôt. Orlando, aux USA. Vous y serez.
Ouais, hein, j'ai la chance de... j'ai la chance de pouvoir...
Il faudra venir nous en reparler après.
Exactement, hein, ouais. Voilà. Avec plaisir. J'ai la chance de pouvoir y participer. Donc, ce sera du 25 mai au 7 juin à Orlando.
D'accord.
Comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est un sport assez amateur encore, où on a besoin de sponsors. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est intéressé pour que je l'emmène avec moi sur mon maillot à Orlando, ça sera avec plaisir.
Oui, c'est bien, c'est intéressant.
Effectivement. Parce que ça a un certain coût malgré tout, c'est une expérience incroyable, hein. Vivre une Coupe du Monde, peu importe le sport, avoir la chance de pouvoir représenter son pays outre-Atlantique.
C'est quand même ouf.
Exactement, ouais. Et puis, ça va être une belle... Il y a de beaux objectifs, parce qu'on est trois catégories en fait, à partir. On est une team de 60 joueurs, staff et joueurs. Et il y a la catégorie absolute. Donc c'est les garçons. Il y a la catégorie vétérans, donc plus de 55 ans je crois, 46 pardon, et il y a les féminines. Et la France est championne du monde en titre en absolute, du coup en 2018. Donc là ils vont essayer eux de leur côté, les garçons, de conserver leur titre.
Pas faire comme notre équipe de France de foot.
C'est ça, on va essayer, puis nous on sera là aussi pour les soutenir, et puis nous on va aller essayer d'en chercher un aussi, de notre côté avec les filles, les plus de 46 aussi vont essayer d'aller la chercher.
D'accord.
Donc il y a de beaux objectifs et ça promet d'être intéressant.
Très bien. Juliette, il y avait une info sportive, hein, en dehors du foot aussi, en dehors du foot-golf, info sportive, hors foot.
Ah oui, donc je vais revenir sur les actualités de ce week-end. Donc déception pour Caroline Garcia, la Française s'est inclinée en finale du tournoi de Lyon face à l'Américaine Alicia Parks 7-6-7-5. Elle n'est jamais parvenue à breaker Parks de tout le match. Caroline Garcia reste à la 5e place du classement WTA. Transfert en NBA, sur le marché depuis quelques jours à peine, Kyrie Irving vient déjà de trouver preneur. Les Nets viennent d'envoyer le meneur direction les Mavericks, où il deviendra le coéquipier de Luka Doncic, un nouvel échec cuisant pour les Lakers à l'approche de la deadline. Du côté du tournoi des Six Nations, la France remporte son premier match 29-24 face aux Italiens. Il y a aussi une victoire héroïque de l'Écosse face à l'Angleterre 29-23. Et enfin, l'Irlande impressionne contre le Pays de Galles en gagnant 34-10. Il y a aussi eu le week-end de judo à Bercy. La France a terminé le Grand Slam Judo 2023 à la première place du classement des médailles. La délégation tricolore a remporté 11 médailles, dont 4 en or.
Teddy Riner, Blandine Pont, Priscilla Nieto ou encore Audrey Chemeau sont tous montés sur la plus haute marche du podium. Et enfin, top départ pour les mondiaux de ski alpin. Les championnats du monde 2023 débutaient ce lundi à Courchevel. Seule épreuve de la journée, le combiné femmes, remporté par l'italienne Federica Brignone. Le combiné homme aura lieu demain avec l'entrée en scène du français Alexis Pinturault.
Très bien, puis la semaine prochaine, on n'oubliera pas de faire envoyer le jingle. Ah, bah oui, on a oublié d'appuyer sur le bouton tout à l'heure là, pour le direct avec Stéphane, puis là on oublie le jingle, mais enfin, on fera tout ça bien la semaine prochaine. Bon, pour le rugby justement, elle en parlait, l'équipe de France qui s'est très difficilement donc imposée, 29 à 24 contre l'Italie. L'équipe de France gagne, mais ça a été un de ses plus mauvais matchs de ces dernières années.
Ouais, très compliqué.
Mais enfin, gagne.
Ouais, 18 pénalités concédées, c'est colossal. Le nouvel entraîneur de l'équipe de France qui s'occupe de la partie défense anglais en espérait 10. Ils essaient de se caler là-dessus parce que l'équipe de France, le 15 français, est une équipe qui fait beaucoup de fautes. 18, c'est beaucoup trop. On a subi un essai, puis un second par pénalité. On concède quand même 24 points, sachant que les Italiens n'ont pas été forcément toujours à droit quand il s'agissait d'inscrire 3 points. Mais voilà, on part avec la victoire.
Ils ont surtout été pénalisés au début du match. Hein. Ils ont été un petit peu pénalisés dans leur jeu. Ils ont voulu jouer et puis bon, ils prennent cet essai en compte qui finalement, c'est l'essai qui leur coûte cher à l'arrivée. Hein. Il y a 5 petits points, sinon ils n'ont rien lâché physiquement. Ils ont été bons collectivement. C'est une équipe qui est en net progrès et qui peut jouer peut-être pour la première fois depuis 25 ans, dans quelques années, les premiers rôles dans le tournoi Destination. Là, il y a une véritable progression de cette équipe d'Italie. Hein.
Ouais, ben Flamand, pour sa première en équipe de France, sur un petit coup de chance, a pu s'emparer de la balle. Capuzzo, côté italien, on sait qu'il est d'origine française, a fait un gros match. Mais il y a une nouvelle génération du côté de la Squadra Azzurra.
Ouais.
Ça fait du bien. On sait que c'est un pays qui souffre un peu sportivement.
Ouais, c'est pas un pays de rugby en plus. Hein.
Le foot, c'est compliqué, mais ils ont une nouvelle ère et pourquoi pas. Voilà, ils ont presque mis en échec le tenant du titre, la France.
Ouais.
Donc pourquoi pas pour la suite.
29-24, Valentin, il va falloir vraiment progresser pour cette équipe de France qui a quand même souvent l'habitude de gagner ses matchs, j'allais dire, dans le money time. Hein, on l'a vu contre l'Afrique du Sud cet hiver où elle a gagné également sur la fin, 30-26. Elle a battu l'Australie 30-29 d'un petit point. Donc c'est une équipe qui est souvent habituée à gagner au money time. Enfin bon, ça ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine contre l'Irlande. Il va falloir vraiment améliorer son niveau de jeu. Là, comme l'a dit Juliette, l'Irlande qui a écrasé le Pays de Galles 34 à 10.
C'est ça, il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur. Je pense qu'il fallait rentrer dans cette compétition. Tenant du titre, il y a beaucoup de pression, hein. C'est différent. On était à Rome, chez les Italiens. Ça fait quelques années qu'ils sont décriés, qu'ils se font... On va pas se mentir, l'Italie, ça faisait pas... C'était pas un énorme prétendant au titre. Et là, de plus en plus, comme le dit Frédéric Antoine, il y a une nouvelle génération qui arrive. Mmh. Et ça démontre bien qu'on est chanceux en début de match et on se fait vite rattraper en deuxième mi-temps.
Et puis ils n'ont pas flanché.
Ils n'ont pas lâché jusqu'au bout. Et même jusqu'à la dernière minute, on s'est dit, peut-être, ils vont nous faire un coup de génie, un coup d'éclat. Et heureusement, on a réussi à sécuriser ça.
C'est l'entame de match, quoi, où ils prennent cet essai en compte alors qu'ils veulent jouer. Quoi.
Ah, c'est ça, c'est une équipe qui veut jouer, donc je pense que ça va très bien terminer.
La différence, on l'a quand même senti au niveau des grattages. Je pense notamment à l'arbitrage. L'Irlande qui a fait un match parfait. Ils ont très peu concédé. L'arbitrage n'était pas le même. On sait que, comme un peu dans le foot, ça arbitre à l'anglaise, ça arbitre un peu plus à la française.
Alors, en plus, dans le rugby, il y a encore beaucoup d'interprétations, y a encore plus règles que dans le foot. Hein.
Mais les grattages français ont toujours été pénalisés. En 18, je pense que si on avait affronté l'Irlande qu'on affrontera avec l'arbitre du 15 irlandais, ça n'aurait pas été la même histoire. Mais comme vous l'avez rappelé, Philippe, on s'en était sorti contre l'Australie et contre l'Afrique du Sud. Oui, la fin, mais ce n'était pas l'Italie, c'était l'Australie.
Oui, 14e match sans défaite quand même pour ce 15 de France. Et il y a eu, comme l'a dit donc Juliette, 3 victoires à l'extérieur, hein, puisque donc, l'Irlande qui écrase donc le Pays de Galles 34-10, nous qui allons gagner donc en Italie 29-24, et puis un match aussi un peu fou entre l'Angleterre et l'Écosse, victoire de l'Écosse 29-23, c'est la 3e victoire consécutive des Écossais à Twickenham.
Ouais, l'Écosse qui est de plus en plus, qui montre... qui est présente en fait, de plus en plus, qui met son jeu en place. Et de toute façon, Écosse-Angleterre, ça reste toujours un match à regarder, hein, qu'importe le résultat.
Ah, et il y a la Calcutta Cup en plus.
Ouais, c'est ça. Et c'est quand même des pieds de rugby, et ils le démontrent encore là. Et encore l'Écosse, bah, bien joué, parce qu'à chaque fois, ça fait quand même quelque chose de voir l'Écosse gagner face à l'Angleterre. C'est du beau jeu, donc c'est différent.
Ouais. Antoine ?
Oui, et je pense notamment il y a quelques années, l'Italie et l'Écosse, c'était les deux nations les plus faibles au sein de la destination. Oui. Et on voit qu'ils arrivent presque à mettre en échec la France. L'Écosse qui a fait un gros match, qui n'a pas lâché. Et voilà, c'est bien de gagner en Angleterre. Voilà, maintenant, on attend la suite du tournoi.
Bah, c'est le Pays de Galles maintenant et l'Angleterre qui sont un petit peu dans une phase de reconstruction. Hein, eux qui sont quand même des pieds de rugby qui nous ont fait souvent mal dans le passé. Hein.
C'est ça. Ouais.
Ah, vous aimez le rugby, non ? Vous êtes suivi aussi, non ? Pas trop ? Non, le ballon ovale, il n'y a pas encore du rugby-golf.
Oui. Ah, si, il y a du rugby-golf aussi.
Ah bon ? Décidément.
C'est un peu moins de succès que le foot-golf.
Bien sûr.
Mais il y a du rugby-golf.
Ah, bah tiens, j'aimerais bien savoir comment ils font. Il faut mettre ça
Alors, leur boguet, donc on appelle le foot-golf, à eux, c'est des grandes cibles gonflées.
Ah, d'accord.
Et du coup, ils terminent en faisant une passe à la main. Tout le reste est au pied, le putt est à la main.
D'accord. Bon, donc le classement dans le tournoi, Irlande, Écosse, France avec 5 points, hein, parce qu'en rugby, il faut quand même rappeler que quand on marque 4 essais, on a un point de bonification, et quand on est battu et qu'on n'est pas battu sur un écart de plus de 7 points, c'est-à-dire un essai transformé, on a aussi un point de bonification défensive. Donc Irlande, France, Irlande, Écosse et France avec 5 points en tête. Quatrième, Italie, Angleterre, 1 point. Et sixième, donc, Pays de Galles, 0.
Oui, ben voilà, c'est ce qu'il faudra retirer, je pense. Si on tient compte que du positif, on repart avec 5 points, comme les leaders. Donc, numériquement et pour le classement, c'est une bonne opération, finalement.
Très bien. Allez, on va finir cette belle émission d'anniversaire aujourd'hui en parlant par le basket et le volley. Mais auparavant, Valentin, tu n'étais pas là la semaine dernière. Je me suis entendu dire que tu avais suivi la finale de la Coupe de France de hockey sur glace, gagnée par Grenoble devant Gap 3-2.
C'est ça. J'étais à l'Accor Arena pour cette finale de Coupe de France, c'est ça. Et c'était une ambiance vraiment, un Accor Arena rempli, les 14 000 places étaient pleines. Et pourtant, les Rapaces de Gap avaient très bien commencé, 2-0. Et dans le dernier quart, il faut savoir qu'il y a 3 cartons au hockey. Là où le basket, il y en a 4. Ils menaient, on ne voyait pas comment les brûleurs de loups donc de Grenoble pouvaient remonter et pénalité, 2 joueurs qui sortent des Rapaces de Gap, ils se retrouvent à 3 contre 5 et ils se mettent à défendre et en 2 minutes ils perdent complètement le match, ils se font rattraper à 15 minutes de la fin je dirais et après ça a été dès que tu es 3 contre 5 à défendre ça devient très très vite compliqué et ils ont jamais, jusqu'à la dernière minute on a cru que Gap allait réussir à égaliser, qu'on allait avoir des prolongations, des tirs au but, malheureusement ça n'a pas été le cas donc bien joué à Grenoble. Grenoble qui a beaucoup plus de titres que Rapaces de Gap et qui a une histoire avec cette finale de Coupe de France.
Il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. C'est juste à côté du Pau PB. Hein. C'est une glace particulière parce que les Français volants nous en avaient parlé quand ils étaient venus là.
C'est vrai que c'est gigantesque.
Non, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler parce qu'on peut avoir 14 000 spectateurs dans une finale de Coupe de France, un sport dont on ne parle pas très souvent quand même.
Oui, il y avait de l'animation, il y avait ce qu'il faut. Et franchement, à la fin, on a même pu se rendre sur la glace pour aller voir interviewer les joueurs, les rencontrer et c'était il y avait les deux côtés, il y avait les deux côtés, les Rapaces de Gap qui menaient 2-0, c'est horrible de se faire attraper et de perdre un match qu'on avait entre les mains et de l'autre côté les brûleurs de loups Grenoble qui n'y croyaient sûrement plus au bout de 5-6 minutes à la fin et heureusement pour eux, ils ont su garder le mental comme au foot golf et ils ont gagné.
Bon, c'est bien. Allez, on a fait un tour d'horizon de nos clubs parisiens de foot et franciliens de foot. On va naturellement faire un petit point d'horizon sur nos clubs de basket et de volley. Alors, vous savez pourquoi on fait un décompte en pourcentage en basket ? Eh bien, je le sais.
Tu as la réponse.
François Artigas et Guy Michelin ont été interrogés, ils n'avaient pas pu répondre. J'ai un peu fouillé. C'est donc le nombre de matchs joués par rapport au nombre de matchs gagnés.
Ouais, voilà.
Ce qui permet que c'est copié sur le modèle américain de la NBA.
On compte aussi
ce qui fait que quand les matchs sont décalés, parce qu'en basket, on garde, tant qu'on n'a pas joué 100 matchs, on garde la position. Donc, ils ont trouvé ça beaucoup plus juste.
Oui, ça paraît logique en fait.
Voilà. Hein. Ouais, bah, voilà.
J'avais un doute sur ça, parce que je sais qu'en NBA aussi, des fois, on compte le pourcentage de défaites aussi. Mm-hmm. Dans tout ça, il y a beaucoup de calculs qui sont faits. Mm-hmm. Mais oui.
Parce que c'est vrai que quand je posais la question avec Guy la semaine dernière, ou avec François, donc au mois de janvier, on s'était dit, mais pourquoi en pourcentage? Et ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a donc copié ce système par rapport au basket américain. Bon, en tout cas, il y avait un gros match hier, un gros choc. Monaco qui a donc. Battu le Paris Basket 103-81. Il n'y a pas eu match.
Il n'y a pas eu match, contrairement quand Monaco s'était déplacé à Paris, on se souvient, pour le match à Roland-Garros, où Paris, jusqu'à la dernière minute, ils avaient 3 points d'écart. Une dernière possession qu'ils avaient malheureusement loupée pour essayer d'aller en prolongation. Là, Monaco, il n'y avait pas match. Il manquait Axel Toupan, qu'on sait qui est le deuxième capitaine de cette équipe, qui est le pilier offensif de cette équipe. Il manquait aussi leur meneur. Beaucoup de joueurs étaient en sous-forme. Ça fait la troisième défaite de suite. Donc ça commence à devenir inquiétant.
20e journée de championnat.
C'est ça. Et ça, on s'approche de la fin. Et en plus, troisième défaite de suite. En Eurocup aussi, ils se sont inclinés. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Je sais pas. On a l'impression de retrouver un peu l'équipe du début de saison où les rotations sont mauvaises, le plan de jeu est mal mis en place, la défense, il y a plus de défense tout simplement. Et Monaco, premier du championnat, c'est pas pour rien et ils l'ont encore prouvé. Ils sont très bons en Eurocup, en Euroleague pardon. Et là encore une fois, ils ont dominé. Clairement, il y avait pas match.
Et puis courte défaite de Boulogne-Levallois à Blois, 78-77.
Ah bah Blois qui a fait un match extraordinaire. Blois qui
a eu un sujet dans le stade 2 d'ailleurs.
Qui a mis par terre notre ami Victor Wembanyama. Je vous invite à voir l'action. Voilà.
Bah là c'est pareil, on parlait des 14 000 donc pour le hockey, mais je crois qu'ils étaient, je sais pas s'ils étaient pas 20 000 à Blois.
Ils étaient
20 000 à Blois.
Non, non mais c'est l'effet Victor Wembanyama et surtout c'est l'effet aussi futur crack de la NBA. Mais Blois a fait un match extraordinaire, a tué le match avec des trois points incisifs, une attaque vraiment. Il y a même encore notre ami Victor qui a failli prendre un poster dunk qui est vraiment. Ça passe à quelques centimètres, mais franchement, j'espère qu'il est prêt pour la NBA parce que ça, il va en avoir tous les soirs. Donc, donc à voir comment ça se passe. Mais très belle victoire de Blois.
Mais je pense, on parlait de l'ambiance, notamment au hockey sur glace, et dans le basket, il y en a aussi. Je pense à l'année dernière, à Kevin Durant, qui était venu à Monaco pour voir un match de la Roca Team, et il l'a dit qu'il était submergé par l'ambiance, il avait adoré, et qu'il se voyait, pourquoi pas, finir sa carrière une ou deux saisons en Europe. D'accord. Donc ça prouve qu'il y a de l'ambiance dans le basket français, européen.
Et puis Gravelines Dunkerque, donc, qui écrase aussi assez nettement donc, Nanterre, 93-56. Donc Monaco, on a dit en tête, 85%. Devant Boulogne, Levallois, 70%. Paris est 12e en milieu de tableau avec le Portel.
Pour 40, la 9e place, il y a encore une semaine.
Oui, 40%. C'est ça. Le Portel et Paris. Et puis Nanterre et Blois, 15e avec 35%.
Ça fait mal de voir Nanterre à cette place-là quand on les a connus champions de France. Mais il y a des mauvaises passes comme ça. Je pense qu'ils vont retrouver le rythme qu'ils avaient en début de saison qui était plutôt bon. Et puis là, Blois, c'est une grosse victoire face à Boulogne. Donc ça peut forcément relancer un effectif.
Bien sûr. Donc, Bon, 19e journée en volley. Alors, le Paris volley qui avait été battu en Coupe de France par Ajaccio 3-2 a aussi été battu à domicile assez nettement, sèchement, 3-0 par Saint-Nazaire. Défaite aussi du PSG Robinson à domicile contre Chaumont, qui est aussi une ville de volley, 3-1. Donc, pour l'instant, Paris est 9e avec 25 points, sont presque dans le ventre mou. C'est Tours qui est en tête, 44 points. Devant Saint-Nazaire, 2e, 41. 3e, Chaumont, 40. Quant au PSG Robinson, il est toujours avant-dernier avec 13 points.
Et 13e. Ça fait beaucoup cette saison. Déjà, face à Saint-Nazaire, ils avaient pris un 3-0 aussi. Mais bon, Saint-Nazaire est deuxième, c'est pas pour rien. Et Paris, on sent qu'ils avaient tout donné face à Ajaccio, que le 3-2, ils étaient allés même chercher la victoire. On y a cru à un moment donné, à 10-15 minutes de la fin. Ils étaient bien revenus. Ils étaient là pour sur l'homme, pour contrer. Ils étaient présents. Et là, on sent que le 3-0 et le match dès le début, ils sont pas dedans, ils font des fautes bêtes et ça les emmène à cette défaite cinglante. Mais deux défaites d'affilée, il faudrait pas que ça devienne une habitude, surtout un 3-0. Parce que tu peux perdre, mais si face à Ajaccio, tu te bats 3-2, en Coupe de France, 3-0, ça fait mal d'en venir à la maison ou de même jouer à la maison et de prendre 3-0. Quoi.
Très bien, merci. Je voulais simplement aussi finir cette émission avec la mort de Jean-Pierre Jabouille. Ça fait trois grands pilotes de Formule 1 qui sont morts en, année, quelques, ouais. En quelques semaines. Il y a eu Patrick Tombay, c'était au mois de décembre pendant le Mondial. Il y a eu Philippe Ostreff et puis Jean-Pierre Jabouille. Ça fait partie de cette belle génération des
oui,
belle, des pilotes
belle
de
génération
Formule 1
Renault
qu'on a
connu, et tout. Ouais, oui, la Formule 1, c'est assez triste, mais ces deux dernières années sont de... De plus en plus, on a des pilotes qui disparaissent et c'est, on ne peut que regarder. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube Jean-Pierre Jabouille. Ouais. Il y a des duels. Hein, c'est plus la F1 d'aujourd'hui qui est très différente. Cette époque-là, c'était de la défense, de l'attaque gentleman, ouais. Mais c'était robuste. Il y avait cette science du danger en fait, qui était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Mais. C'est triste. On espère ne pas en avoir d'autres cette année.
Oui, c'est une année un petit peu compliquée pour le sport automobile français. Merci Valentin. On va remercier donc notre ami Antoine. Ça
merci, c'était un super moment.
Abou, il va venir dire au revoir aussi. On va le remercier. Puis merci à Juliette.
Hein, pas de soucis.
Qui va suivre l'actu foot et puis l'actu sportive aussi.
Au revoir, j'ai tout cassé.
Pour la semaine prochaine, voilà. On va remercier en tout cas nos invités. Vous avez un site internet, Mickaël?
Il y a un site internet, My Paris Foot Golf, et il y a aussi sur les réseaux sociaux, hein, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, on essaie d'être partout. Merci en tout cas de l'invitation.
Ça a été un plaisir, merci en tout cas.
Merci à vous et j'espère vous voir toute l'équipe sur les greens.
Oui, c'est promis, ils vont aller faire un petit reportage. Hein. Mélanie, merci en tout cas.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Et vous nous tenez au courant.
Exactement, de toute façon, vous mai, serez tenus au courant arrive, de tout ce qui se passe à Orlando.
Vous revenez et puis il y a des étoiles sur les maillots comme...
Je pense, oui.
Oui, comme au foot classique.
Oui, on a la petite étoile qu'on a eue en 2018. J'espère qu'on aura une deuxième et peut-être une troisième, l'équipe féminine et l'équipe homme.
Voilà, c'est génial.
Donc s'il y a le titre, vous nous ramenez avec le maillot. Hein.
Exactement. Si j'ai la chance de ramener la coupe à la maison, je vous ramènerai le maillot.
On sera sur les Champs-Élysées.
Pas de souci, on y sera.
En plus, elle l'a chanté lors de.
Voilà. Très bien. Ah bon? Ouais. Allez, merci à Jason une nouvelle fois d'avoir mené cette émission de main de maître. On finit avec Big Flo et Oli. Je suis. Et puis rendez-vous donc la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et restez-nous fidèles toute la semaine. Hein. Salut.
Je suis enfermé. À l'étroit dans ma cellule, tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches, entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche. Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte, comme si j'étais responsable de toute la misère du monde. Moi, je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. Ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté. Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu. Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue. Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air. Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père. Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place. Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face. Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les sonneries téléphonent, la pression élargit mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage. Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin j'ai écrit tout va bien au dos de la carte postale. Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent dans l'ascenseur. Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, il y aura plus de place pour nos racines. Je suis fatigué, mal au dos et mal aux reins. Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens. On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris. On dit que ce pays n'est pas le mien, alors que c'est moi qui l'ai construit. Je suis assis, et le destin a fait que je me relèverai jamais. Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé. Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leur porte. Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute. Je suis heureux, jeune diplômé, esprit bête. J'ai étonné ceux qui rêvaient de me voir abandonné. Ma famille est loin d'ici, j'espère que là là-bas ils sont fiers. Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère. Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi. Et je leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras. J'ai compris que parfois les adultes sont paumés, parce que les plus grandes leçons c'est eux qui me les ont données. Je suis énervé, dans mon quartier on s'ennuie loin de la ville. On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui deal. Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois. Au collège c'est le bordel, bientôt je devrais faire un choix. Je suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres on vit un rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent y'a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare guide dans mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je suis inquiet envers ma foi, beaucoup de regards hautains. Je reçois des leçons par des types qui ne font rien pour leur prochain. L'humanité n'a plus de cœur, je vois le monde qui tourne et qui change. Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche. Je suis amoureux et je vois pas qui ça regarde, à part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on se slalome entre les insultes et les blagues. Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague. Je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil. C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film. Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, une statistique, un point de plus dans la foule. Moi je suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage, une manif, un annie, une accolade, une bagarre, une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur, une montagne enneigée. Je suis la pointe, la plume d'un odeur. Je suis les pleurs d'un départ. Je suis la chaleur des bars. Je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Les flemmards, les couches dans les leftos. Les râleurs, les regards dans le métro. Un oncle raciste, un concert vide. La crie, la déprime qui resserre les taux. Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immenses, immenses. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. J'y pense, j'y pense. Je suis la France.
Mon Paris est fait.